Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leur relation avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 108, épisode bonus, épisode hors série un petit peu, un épisode un petit peu différent de différent des derniers épisodes solo que j'ai pu faire. On va pas revoir un livre de fou, on va peut-être pas distiller les conseils de coach de vie les plus intenses que tu aies entendu. Mais on va quand même faire de son mieux, un petit peu plus de storytelling. En fait, c'est un peu l'épisode reprise après les vacances. Je t'avoue que de base, je pensais pas faire d'épisode cette semaine. Et je pensais pas vraiment faire cet épisode. Et puis finalement, je me suis dit, vas-y, on va quand même le faire. C'est gentil, on va parler quand même de choses qui peuvent être intéressantes. Tu l'as probablement compris dans le titre. Je vais parler de mon expérience avec ma copine dans un van pendant une douzaine de jours, quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. Et on va donc parler de cette expérience, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Et on va parler un petit peu de relations de couple. Parce que c'était quelque chose d'assez important dans le contexte de tout ça. Voilà, alors on est mercredi, il est midi, je vais essayer de sortir cet épisode juste après, éventuellement, même si c'est pas évident de sortir des miniatures de son huc comme ça pour YouTube. Mais bon, j'ai été bien malade ces derniers jours, et ça c'est extrêmement rare en ce qui me concerne. C'est pour ça que cet épisode n'a pas pu sortir dimanche. Voilà, j'en reparlerai peut-être un peu après, c'est pas extrêmement important. Donc voilà, petit épisode poseille aujourd'hui. Donc petit résumé un peu de ce qu'on va aborder. Je sais pas combien de temps ça va prendre, ça va être un petit peu plus en impro, même si j'ai quand même quelques petites notes. Je vais rapidement revoir, voilà, un petit peu survoler un petit peu ce qu'on a vu, ce qui s'est passé pendant ces vacances, l'itinéraire, les activités. Voilà, je vais plutôt me concentrer sur le style de vie. Ce que c'est que de vivre en fait dans une grosse caisse, parce que c'était pas vraiment un camping-car de fou non plus. Comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on va aux chiottes, comment est-ce qu'on est H24 l'un sur l'autre quand on est deux dans une grosse caisse en fait. Voilà, le but c'est pas de te raconter qu'on a vu des cascades, c'est plutôt de te parler un peu du style de vie, de ce qui nous a plu, de ce qui nous a moins plu, de nos attentes par rapport à ce genre de style de vie. Par exemple, ma copine idéalisait un petit peu ce style de vie avant et elle se voyait peut-être un jour faire ça. Parce que tu peux assez romancer le truc en mode « Oh, vivre dans un van, c'est simple, c'est la liberté, c'est la tranquillité d'esprit. » Oui, non, ça dépend. On va en parler, il va y avoir mon avis, il va y avoir son avis à elle que j'ai récupéré pour notre plus grand plaisir à tous. Enfin, moi, je l'avais depuis longtemps, figure-toi, parce qu'en fait, j'ai quand même une relation privilégiée avec elle. En fait, c'est le principe. Et voilà. Donc, oui, du coup, j'ai discuté avec elle avant. J'ai eu son accord, bien sûr, aussi, pour donner son avis dans cet épisode. Je la salue, voilà. Peut-être qu'elle nous écoute. Fais gaffe, on est écouté. Je vais faire attention à ce que je dis, putain. Donc voilà, parler un tout petit peu relation de couple. Évidemment, je ne suis certainement pas là pour déballer des trucs intimes. Ce n'est pas mon genre, mais on va trouver le juste milieu. Je dis ça pour que t'écoutes l'épisode. Attention, information croustillante sur ma vie de couple. Non, mais c'est vrai que les relations de couple, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui nous intéresse énormément, sur lequel on fait pas mal d'efforts dans mon couple, en fait, parce qu'on pense que c'est quelque chose de très important. Et du coup, bah, peut-être donner quelques trucs là-dedans. Parler un petit peu de ça aussi dans cet épisode, étant donné que ça fait partie de l'histoire. Je vais aussi balancer quelques anecdotes, peut-être une ou deux anecdotes que j'ai en tête sur la fin de l'épisode. Par exemple, l'histoire du cactus et l'histoire du mec dans sa BM. Ça, c'est deux histoires en une. Quelque chose qui m'a grandement énervé pendant ces vacances. Enfin, grandement énervé. Moi, je m'énerve très peu, mais des fois, je m'énerve. Intérieurement, hein, parce que j'extériorise, je suis pas du genre à taper dans les murs ou à taper sur les gens. ça c'est pas moi. Je suis très peu colérique, mais des fois il y a des trucs qui m'agacent. Et je vais t'en partager un à la fin. Il y avait autre chose, l'histoire des couples à la plage. Si j'ai envie, à la fin, je te parlerai aussi de ça. C'est des petites réflexions ou des petits agacements que j'ai eu pendant ces vacances. Voilà le menu d'aujourd'hui. J'espère que ça te plaît. Ça peut être cool. On part en impro. J'ai quelques listes, notamment les pour et les contre de ce que ma copine et moi avons apprécié là-dedans, et puis let's go, quoi. Bienvenue, j'ai envie de dire bienvenue sur le podcast. Voilà, bienvenue, Beaucoup de gens sont déjà là, mais je sais qu'il y a pas mal de gens. Il y a eu une grande activité sur le podcast pendant le mois où je n'étais pas là. J'étais impressionné. D'ailleurs, le dernier épisode sur David Goggins, le numéro 107, est déjà dans le top 5 des épisodes les plus écoutés depuis toujours sur ce podcast. Donc le podcast se porte bien, ça fait très plaisir. Merci pour les partages, merci pour les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est génial, let's go. Bon, on va commencer par le commencement, une vague description du séjour, de ce qui s'est passé. On est parti quoi ? C'était de fin juillet à début août 2023. On a fait un tour en Suisse, parce qu'en fait, moi j'habite en Suisse, dans la région de Lausanne, pas très loin de Genève, pas très très loin de la frontière française pour le coup. Et je sais pas toi d'où tu viens, probablement de France, je sais que c'est la majorité des gens qui écoutent. Est-ce que tu connais très bien ton pays ? Bon, la France, c'est encore plus grand que la Suisse. La Suisse, c'est pas énorme, mais ça n'empêche, on n'est pas toujours le plus grand touriste de son propre pays. Faut reconnaître. Et ceci a aussi motivé un petit peu notre envie de faire un tour en Suisse. En gros, on est parti deux fois en vacances cette année. Je suis parti deux fois en vacances cet été. Une fois en France, dans le sud, en voiture. Et une fois, on a fait ce tour de van. Donc, on a loué un van, voilà, une grosse voiture, comme j'ai dit. On est parti une douzaine de jours. On a fait un petit tour de Suisse, une petite boucle en Suisse. Et on est revenu au point de départ le 12e jour. Donc, on a fait pas mal de routes, mais pas tant que ça concrètement, parce que voilà, toute proportion gardée, la Suisse c'est pas énorme. On a fait des arrêts régulièrement, on n'a jamais conduit. Enfin, le dernier jour, on a quand même gardé le gros morceau pour la fin parce qu'on n'avait pas envie de, visiter les montagnes suisses dans le canton du Valais. Donc en Suisse, il y a beaucoup de cantons. Des cantons, c'est un peu comme des départements, voilà, pour ceux qui savent pas. Je suis jamais complètement certain de combien il y en a. Il y en a 24 ou 26. On a tout appris, etc. D'ailleurs, je les ai révisés un peu. Ils ont tous un drapeau, ils ont tous un nom. Il y a pas mal de langues dans ce magnifique pays qui est la Suisse. Mais le suisse n'est pas une langue. Alors, les Français le savent généralement bien, mais il y a beaucoup de gens, par exemple les Américains, certains Américains et d'autres personnes en dehors de l'Europe, pensent que nous parlons suisse. Certains savent même pas. Hein. Enfin, savent même pas. Ouais. C'est vrai que quand j'étais en Australie ou en Amérique, des fois je disais « Yes, I'm from Switzerland ». Et les gens, ils disaient « Ah, Sweden, nice ». Sweden. Sweden, c'est la Suède. Quand je disais Switzerland, ça m'est arrivé, bah, je vais pas dire, c'est pas régulièrement, mais une ou deux fois, j'ai dû dire « Non, non, Switzerland, c'est un pays, en fait, au milieu de l'Europe et tout, voilà ». C'est pas énorme, et on a quatre langues nationales dans notre beau pays, que j'aime beaucoup, j'adore ce pays, je l'aime encore plus maintenant que j'ai l'impression de le connaître un tout petit peu plus. Il y a la région suisse francophone, là d'où je viens, c'est la deuxième partie, la deuxième plus grande partie du pays, où on parle français, voilà, concrètement. Comme c'est mon cas. Il y a la région suisse-alémanique, où ça parle allemand et surtout suisse-allemand, qui est un genre de dialecte à l'oral de l'allemand, qui ne s'écrit pas vraiment, mais qui se parle, en fait. Et les suisses-allemands sont majoritaires dans notre pays. On pourrait dire que s'il devait y avoir qu'une seule langue en Suisse, ce serait l'allemand. Par contre, je ne serais pas d'accord. Et beaucoup de gens qui parlent les autres langues ne seraient pas d'accord. C'est bien pour ça qu'on s'est mis d'accord sur autre chose. Il y a une partie suisse-italienne. Le Tessin, ça s'appelle. C'est un peu le sud-est de la Suisse. Sud-sud-est, où ça parle italien. Et il y a un petit dialecte qui s'appelle le romanche, auquel nous avons assisté pendant ce voyage, qui se parle dans l'Est, dans la partie un peu perdue de la Suisse, à l'Est, enfin, si je puis me permettre, la partie un peu perdue à l'Est. Le romanche, qui est une langue parlée peut-être par 60 000 personnes, c'est un genre de... Je sais plus exactement, j'avais été regardé pendant le voyage quel mélange c'est, mais c'est un mélange d'italien et d'allemand un peu. C'est intéressant, c'est sympathique. Et les romanches se sont beaucoup battus pour que ça devienne une langue nationale et protégée, parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre ça. Donc voilà, on a quatre langues, mais on n'a même pas la nôtre. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se comprendre en Suisse ? Eh ben, on en apprend une cinquième, l'anglais, parce que c'est la seule langue qu'on arrive à peu près à tous comprendre. L'avantage, c'est qu'en Suisse, on est fortement poussé, de par ces raisons-là, à apprendre une deuxième langue. Moi, j'ai fait 9 ans d'allemand à l'école, et je parle extrêmement mal allemand, bien sûr, mais je comprends assez bien. Et je parle anglais, parce que en Suisse, on parle beaucoup anglais, quand même. Donc voilà, bon, j'ai fait un petit cours d'histoire de la Suisse. Je sais pas si c'était important, nécessaire ou intéressant, mais tant qu'on est à raconter des histoires, eh bien, racontons un petit peu des histoires. Donc voilà. Et d'où est venue l'idée de faire ça ? Bah, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Moi, j'aime bien les nouvelles expériences. Nous aimons bien tous les deux les nouvelles expériences. Il y a beaucoup de choses à apprendre à faire ça. C'était un moyen très sympathique de faire un petit tour de Suisse. C'est une méthode que j'aurais tendance à recommander pour faire un tour, par exemple, en Suisse, parce que la Suisse, c'est un pays qui est cher quand même. Hein. D'autant plus quand tu n'habites pas et ne travailles pas en Suisse. Si t'es déjà venu par ici et que tu t'as réalisé, par exemple, des prix que tu peux comparer, par exemple, le prix du McDo. Ah, ça fait mal au cul. On peut se permettre de le dire, ça fait mal au cul. D'acheter des trucs en Suisse, de la bouffe par exemple, oh là là, c'est cher, mais bon, les salaires, le pouvoir d'achat est bon quand tu travailles ici. Mais du coup, le fait de ne pas avoir de payer d'hôtel ou d'Airbnb ou tout ça, ça permet de visiter le pays sans payer trop trop cher. Et d'où est venue cette idée? En fait, ça venait un petit peu d'une... Je sais pas exactement, on s'était dit que ça pouvait être sympa, mais d'un autre côté, quand on s'est rencontré avec ma copine, c'était sur une application de rencontre, comme je l'avais déjà dit dans un ancien épisode, et dans sa bio à elle, elle avait mis un truc du style, elle aime bien les fancy dinners, elle aime bien les restos sympas, mais ça la dérange pas non plus d'aller faire genre, elle avait mis une phrase du genre, de vivre 7 jours dans un van sans me doucher. Un truc du genre. En mode, j'aime bien les trucs fancy, mais je suis une fille simple aussi. Et c'est vrai, voilà, ça c'est vrai. Du coup, j'ai voulu la tenir au mot et je me souviens qu'une des premières phrases d'accroche que j'avais utilisées quand on se connaissait pas, tu sais, pour draguer un peu par message, tout ça, c'était un peu en mode, let's go, vas-y. Vas-y, je viens te chercher et on part en van. Ah oui, j'étais très confiant comme ça dans mon message. Bah, comme j'ai dit dans mon épisode sur Tinder, j'avais pas le time moi. Hein. Je savais ce que je voulais, je savais un peu qui j'étais et j'ai tout à fait confiance en moi. Donc j'étais là en mode vas-y, t'habites où? Je viens te chercher dans mon gros van. Je te mets à l'arrière. oui bah ça s'est pas fait en fait. Ça s'est pas fait. Voilà, elle a compris que c'était de l'humour, mais je pense que ça vient un petit peu de là. Et ça, c'était l'année dernière, hein. Juste pour poser un tout petit peu le contexte sur la relation, mais même si, évidemment, mon but n'est pas de parler trop de les détails de la relation qui ne nous concernent que nous resteront entre elle et moi, bien entendu. Donc, voilà un petit peu pour le décor. Donc, le van, on l'a loué. On a fait un petit tour. Bah, je vais peut-être d'abord... donner des petites infos sur la planification du voyage, sur tout ça, rapidement pour ceux que ça intéresse. Comment est-ce qu'on a planifié ça? Bah, on s'est dit, écoute, c'est quoi l'essence un peu même d'un voyage en van? Bah, c'est un peu YOLO, hippie life, spontané, let's go, esprit libre, wild spirit, tout ça, ce qui n'est pas nécessairement mon fort, ce qui est un petit peu plus le sien. C'est pour ça que nous complémentons bien. Et en gros, on s'est dit, bon, on va outliner, on va délimiter un petit peu les contours de ce qu'on veut faire. Mais clairement, on n'était pas en mode, ce soir-là, on dort ici, ce soir-là, on fait cette journée-là, on fait ça. Non, on était en mode, ok, dans quelle région est-ce qu'on va aller? On a fait quelques recherches pour savoir un petit peu sur le moment même, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, histoire de pas être constamment sur nos téléphones en mode, bon, bah, quelle est la prochaine activité? C'était en mode, tu sais, il faut trouver le juste équilibre, je pense que tu comprends l'idée, le juste équilibre dans les vacances. D'ailleurs, peut-être que tu as pu partir et que tu peux t'apparenter un peu à ça pendant les vacances que tu as eues cet été, mais c'est un peu en mode, bon, je pars quelque part, il faut que ça soit rentable, parce que j'ai envie de visiter des trucs, j'ai envie d'en avoir pour ma thune, pour mon temps, pour mes vacances. D'un autre côté, j'ai pas envie d'être constamment en train de courir d'un point A à un point B, à un point C, en ayant à peine le temps de venir. En fait, tu te pointes à un endroit, tu prends une photo, vite, il faut se casser pour aller à l'autre endroit. Bref, tu passes ton temps à courir, tu n'emmagasines peut-être pas assez, et tu rentres chez toi, t'es fatigué, et puis t'as l'impression d'avoir juste coché des cases. Tu vois, j'en avais parlé avec un de mes meilleurs potes il y a pas longtemps, c'est vrai que les vacances, ça peut être stressant pour certaines personnes aussi, je pense que ça dépend de notre personnalité, mais en mode, il faut faire des choses d'un autre côté, et il faut pas que ça soit juste des corvées, comme on a peut-être l'impression qu'on passe déjà nos journées normales à cocher des cases, tu vois, en allant au travail, en faisant la lessive, tac, tac, tac. Ouais, pas toujours évident, donc on a essayé de trouver un entre-deux à ce niveau-là, on savait qu'on allait faire un tour que je peux donner. rapidement. Donc on est parti de la région fribourgeoise parce qu'on a loué notre van un petit peu par là. Ça c'est juste pour ceux qui connaissent, hein. Je vais pas m'attarder parce que il y a plein de gens qui ne connaissent pas la Suisse qui écoutent. On est parti vers Grindelwald, vers Interlaken. On a fait un petit moment là-bas. Là, c'était l'endroit le plus touristique. Interlaken, c'est dans le canton de Berne. Berne, c'est la capitale de la Suisse. C'est vers le centre, un petit peu le centre sud-ouest, un peu au sud-ouest du centre du pays. Et c'est super touristique. Il y a énormément d'Asiatiques. Il y a énormément de personnes qui viennent notamment des Émirats arabes. C'est blindé. C'est blindax. C'est même un peu abusé parce qu'il y a des drapeaux suisses, mais littéralement partout. Il y a des drapeaux suisses partout et en tant que Suisse, j'arrive et je me dis « Bon, les gars, ouais, ah ben, c'est un peu, ça fait un peu parc d'attractions. » Alors que concrètement, ce qu'il y a à faire là-bas, c'est la nature. Ce qu'il y a à faire dans ce pays, autant qu'on se le dise tout de suite, c'est la nature. Très, très jolie montagne, très, très joli paysage. De quoi faire des randonnées de fou, une quantité de lacs. T'as peur. Il y a vraiment beaucoup de lacs au mètre carré dans ce pays, j'ai l'impression, et je trouve ça magnifique. Donc, il y a des lacs, des montagnes. Voilà, des jolis visages, des jolis chalets, il y a des plages un petit peu bien sûr, mais c'est des plages de lacs, etc. Et il y a toutes les activités que tu peux imaginer, hein. Surtout dans un endroit comme Interlaken, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'activités du style, bah voilà, saut en parachute, deltaplane, blabla, canyoning, machin comme ça. Et d'ailleurs ça, on en a fait un petit peu. Donc on est passé par là, ensuite on est allé vers le lac des Quatre Cantons, au milieu, un petit peu, on est allé là-bas... Ouais, enfin bref, voilà. Je sais pas trop quoi dire, en fait, je vais y aller très vite. On est resté un peu là-bas, on a fait des randonnées. Ensuite, on est parti dans le canton des Grisons, là où ça parlait un peu romanche, justement. On est allé voir un peu la ville principale qui s'appelle Coire. On a goûté quelques spécialités. Ensuite, on est descendu dans la partie qui nous intéressait peut-être le plus. C'est la partie suisse-italienne du Tessin, où on a passé les 3-4 derniers jours. On a fait du canyoning. Donc, je te laisse te renseigner si tu sais pas ce que c'est. Mais en gros, c'est les trucs dans les gorges où tu fais des sauts, où tu as des toboggans naturellement. Il y a des toboggans naturels dans la roche. Tu as un casque, tu as un harnais, tu fais des descentes en rappel. C'était une des plus grosses, entre guillemets, activités qu'on a fait. Sinon, on a passé beaucoup de temps à marcher, beaucoup de temps... Même des fois, je courais, tu vois, parce que maintenant que je cours, bah, les randonnées, je me dis, bon, bah, en fait, ça va plus vite en courant. On voit plus de paysages à la minute en courant. Donc, on n'a pas couru non-stop, mais c'est vrai qu'on a couru des fois un petit peu, c'était marrant. Mais voilà, on a vécu ça un petit peu à la cool. Des fois, on est resté posé dans le van à discuter, simplement. Parce qu'avec ma copine, on aime beaucoup parler. Voilà, pro-type de fou. Parler est une bonne façon de communiquer. Communiquer est une bonne façon d'avoir un couple en bonne santé. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, c'était la leçon de couple du jour. Merci. Avec plaisir. Bref, je vais pas trop voir l'itinéraire parce qu'en fait, j'ai pas mal partagé en story pendant ce voyage. C'est la seule chose que j'ai fait. J'avais pris mon ordi parce que, voilà, n'exagère rien. J'étais quand même obligé de prendre mon ordi. Je l'ai ouvert juste une fois. Mais en gros, tout ce que j'ai fait, c'est filmer un peu avec mon téléphone, faire des stories parce que j'aime beaucoup faire des stories. Et beaucoup de gens ont beaucoup apprécié parce que, bah, j'ai quand même pris pris soin de faire des stories que je jugeais stylées. Et histoire de retracer un peu le parcours en images des choses qu'on a faites. Tout ceci est accessible encore sur mon compte Instagram, @ericflag. J'ai laissé les stories en highlight. Donc tu peux aller voir, ça s'appelle Van Trip, avec un petit drapeau suisse. Tu peux cliquer dessus et voir tout ça si jamais tu l'avais pas vu. Ou revoir tout ça pour avoir notre itinéraire un peu plus concret. Voilà, je vais pas aller plus loin à ce niveau-là parce que le but c'est pas de raconter ce qu'on a fait. C'est plutôt un peu de se concentrer sur le style de vie. Et je crois qu'on va partir là-dessus. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, du coup, qui sont pas trop... qui n'ont jamais fait ça, qui écoutent. Ça pourrait te donner envie, en fait. Moi, je recommanderais. Hein, spoiler, je recommande de le faire. Est-ce que j'aurais envie de vivre dedans toute ma vie? Tu te doutes peut-être de la réponse, mais je vais y venir plus en détail aussi. Mais c'est une très belle expérience. Je peux vraiment que recommander. Donc, par rapport à comment ça se passe, on a loué un van. Alors, le van, j'ai même été chercher les détails pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a beaucoup de vans qui sont assez connus, comme par exemple les California de Volkswagen. Nous, on avait un Opel Vivaro. Voilà, si jamais ça t'intéresse. Opel Vivaro, c'est pas une énorme caisse. Je pense que c'est vraiment... c'est un peu la première taille de van. Comment est-ce qu'on a trouvé ça? J'avais pas envie de prendre un énorme truc. J'avais pas envie d'avoir à conduire une fourgonnette parce que c'est moi qui ai conduit. exclusivement même, j'ai envie de dire. De base, on devait partager la conduite, mais en fait, c'est vrai que c'est quand même un gros truc. Et on s'est mis d'accord à ce niveau-là. Moi, ça me dérange pas de conduire. Et ouais, donc, assez grosse caisse, mais pas si compliqué à conduire. Mine de rien, le van était bien aménagé. Hein. C'était une entreprise de location de van. Ils sont très sympas. D'ailleurs, il y a leur référence dans mes stories Instagram. Si jamais pour des Suisses, ça vous intéresse, ils sont très sympas. Je recommande. Et le van, bah du coup, est aménagé avec bon, t'as la cabine avant où tu peux conduire, etc. Et l'arrière, c'est de base un fourgon vide qui a été entièrement aménagé. Et c'est franchement plutôt bien fait. On était assez impressionnés. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. En gros, t'as un espace avec une table et des petites chaises autour, et la table se transforme en lit, les coussins se mettent pour que ça fasse un matelas, et puis le lit est pas si petit, hein. Honnêtement, on a plutôt bien dormi, on a beaucoup mieux dormi que ce qu'on pensait. Il y a un petit coin avec une cuisine, parce qu'il y a une cuisine en fait, enfin une cuisine, il y avait deux plaques à gaz, il y avait un évier avec de l'eau, évidemment. Il y avait un frigo, putain, un frigo banger, hein. Banger d'avoir un frigo dans sa voiture, toujours un truc au frais, tu peux garder ta bouffe et tout. C'était sympa, il y avait pas mal d'espace de rangement sous le lit, etc. Alors tout ça, c'est assez restreint, ça dépend tes attentes, ça dépend... si t'as envie de voyager avec ta maison, bah c'est compliqué parce que ta maison, elle tient pas dans une caisse. Deux maisons ne tiennent pas dans une caisse, clairement. Nous, on avait quoi ? On avait une valise, on avait pris chacun une valise de la taille de ce que tu peux garder en cabine, en avion, tu vois. Une valise pas énorme, pas une grosse valise. Ça aurait été un petit peu plus compliqué. Une valise et un sac en plus, tu vois, quelque chose comme ça. Avec des vêtements, avec toute cette histoire. Il y avait une petite, il y avait l'électricité à l'arrière. Alors l'électricité, c'était du je sais pas comment ça marche, 12 volts ou quoi. En gros, tu pouvais recharger ton téléphone tous les jours. Il y avait des petits panneaux solaires sur le toit et ça permettait du coup de toujours pouvoir recharger son téléphone, ce qui était très pratique parce que c'était un peu le seul vrai accès nécessaire à l'électricité dont on avait besoin. Si j'avais voulu utiliser mon ordi ou pour recharger des trucs qui demandaient du 220 volts, alors là, c'est pas possible. Mais il y avait une prise, donc si on allait dans un camping et qu'on branchait une grosse prise qu'il y avait dans une prise de camping 220 volts, là, on aurait pu avoir... Il y avait une multiprise où on aurait pu brancher n'importe quoi. Et voilà, même, tu vois, on aurait pu prendre une PlayStation et une télé, que ça pouvait marcher si t'es en camping, ça peut le faire. Donc voilà, nous, on n'a pas utilisé ça. On n'a jamais été... dormir dans un camping, même si on pensait peut-être qu'on allait le faire, mais on va y venir. Je termine juste un petit peu avec ça. Oui, qui dit qu'il y a de l'eau dit que il faut remplir l'eau, il faut vider l'eau. Il y a des bidons d'eau sale et des bidons d'eau propre, plus le bidon de la douche qu'il faut remplir quand tu peux, c'est-à-dire généralement avec des toilettes publiques, des fontaines publiques, des machins comme ça. Ça, je vais revenir un petit peu parce que c'est un sacré travail, mine de rien, en fonction de ta consommation. Faut faire la vaisselle, etc. Voilà, la vaisselle, en fait, ça utilise beaucoup d'eau. Voilà, j'ai découvert ça. Ça utilise beaucoup d'eau de faire la vaisselle quand t'as l'habitude de pas faire attention. Parce que l'eau est illimitée, tu vois, il suffit d'ouvrir un robinet, etc. Là, tu réalises qu'en fait, quand tu dois aller porter et remplir et vider ton eau toi-même, c'est pas exactement la même. Et vu que c'est moi qui étais de corvée d'eau, je précise, je m'en suis rendu compte. On a réparti nos tâches, hein, on a réparti les tâches pendant ce voyage. J'y viendrai un petit peu plus tard sur notre répartition assez naturelle qui s'est faite à ce niveau-là. Mais c'est moi qui faisais l'eau, voilà. où est-ce que j'en étais? Oui, en gros, voilà un petit peu la caisse. Donc, on faisait du 1h30, 2h de route tous les jours ou un jour sur deux. On a changé d'endroit où on a dormi tous les soirs. Concrètement, comment ça s'est passé? Alors, je vais raconter notre histoire parce que c'est vrai qu'il y a un peu des mythes, j'ai l'impression, ou des mythes. C'est plutôt tu sais pas trop avant de t'être renseigné un peu. Mais en fait, en van, t'as le droit de dormir n'importe où. Est-ce que t'as le droit de dormir sur un parking de supermarché? T'as le droit de dormir dans la nature? T'as le droit? Alors là, c'est la grande question. C'est le grand truc que tout le monde essaie d'éviter un petit peu, en mode, on verra, en mode, c'est pas vraiment permis, mais à la limite, si on se cache bien, ça devrait passer, tu vois. Tout le monde est un peu dans une zone un peu floue. Il y a des endroits où t'as un peu le droit, il y a des endroits où t'as pas trop le droit, il y a des endroits où t'as carrément pas le droit. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une propriété privée, tu n'as pas le droit sans l'accord du propriétaire, voilà. Qu'on se le dise, donc dans un champ random qui appartient à quelqu'un, t'as pas le droit. Sur un supermarché privé qui possède ses places de parking, bah t'as pas le droit. En fait, t'as pas vraiment le droit nulle part. Et le parking sauvage, c'est-à-dire dans des forêts ou des trucs qui appartiennent peut-être, je sais pas, au département, au canton, au pays, bah t'as pas vraiment le droit non plus, sauf erreur. Alors il faut regarder, il faut se renseigner pour ton pays, ton département, tout ça. Mais en Suisse, globalement, c'est pas vraiment recommandé, slash pas nécessairement permis. Mais il y a des endroits où ça passe, on se comprend. Il y a des endroits où c'est autorisé. Il y a des parkings 24 heures, il y a des parkings qui sont permis. Et comment est-ce qu'on a trouvé où dormir concrètement? Alors, on s'est basé sur deux choses. La première, c'est une application qui s'appelle Park4Night, P-A-R-K-4-Night, N-I-G-H-T. Donc, ça s'écrit en anglais avec un 4 à la place du 4. Et en gros, c'est une carte, c'est un Google Maps où n'importe qui peut laisser son petit pin, sa petite localisation en mode « on a dormi ici ». C'est cool, il y a de l'eau, il y a trois places, il y a de quoi garer un énorme van, il y a de quoi juste rester un petit moment. Il faut payer, il faut pas payer, tu peux mettre des photos, c'est génial. C'est un truc communautaire où tout le monde pose un peu ses trucs. Donc à la fois on s'est basé là-dessus, à la fois on s'est très vite rendu compte que la plupart des choses qui étaient là-dessus, non seulement c'est là où il y a tout le monde, parce qu'en fait tout le monde utilise les mêmes bails, les mêmes conseils, mais en plus c'est souvent des parkings en mode bon bah voilà, le parking qui est devant la gare, avec les trains qui passent d'un côté, les voitures qui passent de l'autre, et une énorme place remplie de bitume là où tu te mets, pas de chiottes, pas d'eau, bah voilà, ça c'est toujours indiqué. Par contre, est-ce que c'est vraiment l'endroit où on préférait dormir? Non. On a utilisé un peu l'autre méthode. L'autre méthode, c'est on verra bien. On n'avait aucune idée. Tous les jours, on ne savait pas où on allait dormir. Ça faisait un peu partie de l'expérience, tu vois. C'est l'aventure, retour aux sources, let's go, YOLO. On s'en fout, on verra bien où on dort ce soir. Et on regardait généralement bah, sur la fin de journée où est-ce qu'on allait dormir. Il faisait jour jusque tard, hein, jusqu'à 21h30, il faisait jour. Donc on avait quand même le time de profiter. Mais c'est vrai que souvent, on y allait en mode YOLO, en mode bon, bah, on va aller dans ce petit coin-là pour voir. On va peut-être pas se mettre aux yeux de tout le monde, on sera pas toujours sûr et certain qu'on a le droit. Voilà, voilà. Mais des fois, on avait le droit quand même, je tiens à préciser. Des fois, on a eu le droit, voilà. Des fois, je sais pas. Probablement que oui, mais voilà, je mettrai pas ma main à couper non plus. Mais c'est vrai que généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher les petits spots en hauteur. On voulait dormir toujours dans des endroits stylés. Pour moi, c'était important que quand je me réveille, la vue soit cool. Alors moi j'étais le directeur en chef de on va aller trouver un petit chemin, on va aller jusqu'au bout du petit chemin, on va passer un petit peu devant tous les panneaux qui disent attention cul-de-sac, ça sert à rien d'aller là-bas, et on va y aller quand même. Et on montait dans les hauteurs, et généralement on regardait sur la carte et on se disait voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a comme petit chemin qui monte un peu dans les hauteurs et qui termine en cul-de-sac, qui sont au-dessus du lac, parce que des lacs il y en avait plein, on s'est très souvent arrêté pas loin d'un lac. Et je me suis dit, bah, on va aller voir là-bas. Et donc, on partait à l'aventure. On s'est retrouvé sur des chemins de gravier un peu, voilà, un peu dodgy. Certains chemins de gravier. Voilà, j'étais aux commandes. Je suis quand même assez, voilà, moi, j'ai pas peur, hein, en voiture. Alors, évidemment, on n'a rien fait de dangereux. Mais il fallait quand même un tout petit peu, voilà, il fallait oser conduire un tout petit peu le van dans certains chemins de gravier qui sont assez pentus et tout. Mais on y est allé. Moi, je suis là. Vas-y. Tant que ça met en danger personne, moi j'y vais, il n'y a pas de souci. On n'était pas au bord de ravins, de choses comme ça, clairement. Mais voilà, il fallait avoir envie d'aller voir. Et du coup, moi j'avais souvent envie d'aller voir, parce que des fois je le sens bien, et quand je le sens bien, bah, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir jusqu'au fond. Donc des fois, on est parti jusqu'à faire des 15 minutes dans des petits chemins et tout pour arriver en haut. Et quasiment systématiquement, on a été récompensé. Et voilà, alors... J'aurais envie de dire la chance, j'aurais envie de dire il faut provoquer la chance, il faut aller chercher pour obtenir. Voilà, chacun trouvera la petite leçon là-dedans. On a trouvé des vues magnifiques. Je suis trop content, c'était incroyable. Tu peux voir ça dans les stories Instagram avec des vues sur tout le lac turquoise, etc. À un moment donné, on a une des plus belles vues, c'était sur le lac des Quatre Cantons. où on a même obtenu d'ailleurs l'accord du paysan, parce que très souvent, on était chez des paysans. Très souvent, c'est complètement inhabité, ces endroits. Hein. C'est vraiment des petits chemins, ils arrivent tout en haut. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fermes complètement désaffectées, avec des grosses granges où t'as vraiment l'impression qu'il y a des fantômes dedans, en fait. Donc, il y a personne qui passe par là. C'est vraiment un gros chemin sans issue qui est accessible juste avec des avec des espèces de tracteurs tout terrain. Apparemment, avec des gros vannes, ça passe aussi. Parfois, hein, évidemment, moi, je dis ça, c'est chacun responsable de lui-même. Mais des fois, c'était habité avec des paysans. Et une fois, on a croisé le paysan, on a essayé de lui demander. Alors, le paysan suisse ne parle pas. Autre que sa langue. Donc le paysan suisse parle suisse-allemand. Le paysan suisse-allemand suisse parle suisse-allemand, ne parle pas français du tout, ne parle pas anglais du tout. Donc c'est difficile de communiquer quand tu ne parles pas suisse-allemand. Donc on a fait des gestes un peu. On a dit genre schlafen comme ça en montrant. Est-ce qu'on peut schlafen ici? Est-ce qu'on peut dormir? Et il nous a dit ja, ruhig, ok. On a été traduire sur Google, ruhig, ça veut dire calme. Donc en gros, il fallait juste qu'on reste, qu'on fasse pas les cons et qu'on fasse pas de bruit. Voilà, bah écoute, nous sommes des gens extrêmement civilisés, j'aime penser, tout à fait polis. On a évidemment rien laissé derrière nous, ça tu verras, ça fait partie des choses qui m'agacent. Les gens qui laissent leur merde là où ils passent. Et donc, tout s'est très très bien passé, on a eu l'accord, c'était génial. Voilà comment est-ce qu'on a dormi, en gros. Hein. Là où on a pu, c'était magnifique, c'était très très cool, ça faisait partie de l'aventure. On se réveillait le matin, je pouvais me raser avec ma vue, je pouvais avoir mon petit café avec ma vue, c'était très très cool. Qui dit dormir un peu n'importe où, dit bon bah il faut bien aller aux toilettes. Alors on avait loué des chiottes chimiques, parce que c'était en option, quand tu pouvais louer le van, ils nous mettaient en option des petits... des petites tables de camping, des draps, des machins comme ça. Nous, en gros, on a juste pris les tables et les chaises qu'on pouvait mettre dehors. En gros, le lit, on l'a fait une fois, et puis derrière, on l'a jamais défait. Enfin, on l'a jamais défait. On n'a jamais remis la table à l'intérieur parce que c'était chiant, ça servait à rien. On n'avait pas envie de rester à l'intérieur du van quand on était pas obligé, tu vois. Et donc voilà. Mais les toilettes chimiques, force est de constater qu'on les a jamais utilisées non plus parce qu'on l'aventure, la nature. Les toilettes publiques, bah, qu'on se le dise aussi, clairement, ça faisait plaisir d'avoir des toilettes publiques ou avoir un tout petit peu de confort, parce que sinon, c'était quoi ? C'était un rouleau de papier chiotte et puis ton meilleur sens du jugement, c'est-à-dire, oh tiens, il y a un arbre là-bas, oh, il y a des broussailles par ici, et puis je te fais pas un dessin. Voilà, concrètement, ça s'est passé un peu comme ça dans le meilleur des cas. Voilà, ça faisait partie de l'aventure. Le papier, on devait le garder, on l'enfermait dans des sacs poubelles qu'on allait jeter dans les poubelles publiques derrière. Donc voilà, je crois qu'il existe même du papier que tu peux, du papier biodégradable que tu peux enterrer ou quoi. Bon bref, on n'avait pas la pelle. Je reconnais, on n'avait pas prévu la petite pelle pour faire ça. On a essayé de faire ça un peu comme on l'a peut-être tous déjà fait. Voilà, derrière un arbre, quoi, concrètement, dans les buissons, accroupi, tout ça. Bref, retour aux sources avec des guillemets, je vais y revenir un petit peu après. Comment est-ce qu'on s'est nourri? Comment est-ce qu'on a fait tout ça? Bah, concrètement, on a dû aller au resto peut-être 3 fois, c'était sympathique. On est allé au resto pour tester quelques spécialités, notamment des spécialités, on dira, au grison, donc des spécialités suisse-allemandes là-bas qu'on avait goûtées, que j'avais mis en story. On a pris une fondue aussi, voilà. C'était quoi? On n'était pas loin du 1er août. En plus, le 1er août, c'est la fête nationale suisse. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y avait des drapeaux suisses absolument partout. J'imagine. C'était la belle fête de notre beau pays. Et on a pris une petite fondue. Ah, c'était sympathique, là. Bonne fondue suisse. Oh là là, ça, c'est bon. Ça, on les fait bien. T'inquiète. Valeur sûre, normalement. Ça dépend où tu vas, bien sûr. Mais même en été, ça fait plaisir. Et puis, en Suisse italienne, on voulait, parce que voilà, fortement inspiré de l'Italie. Le pain, l'huile d'olive, la pizza, la pasta, putain, ça, moi j'adore, ça fait partie de ma nourriture préférée, la nourriture de type italienne comme ça. Je pense que je suis pas le seul, mais alors du coup c'était là-bas qu'on voulait aller au resto. Sinon, bah en gros, voilà, supermarché, et puis on faisait notre tambouille nous-mêmes, on avait nos petites plaques à gaz, et on cuisinait nos petits repas. Alors on avait un mélange de trucs qu'on cuisait, bien sûr, parce qu'on avait un frigo. Donc on s'est fait du riz, on s'est fait des féculents, on s'est cuit de la viande et tout ça. Ouais, je pose ça là parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Ça fait depuis 2-3 mois maintenant peut-être que je remange de la viande. Voilà, je pose ça là, choqueur entre guillemets, enfin choqueur. Après 4 ans et demi en étant purement végétarien, sans manger de viande à part du poisson. Voilà, en étant purement végétarien, pesco-végétarien, voilà. J'ai voulu remanger de la viande. Je comptais faire un épisode dédié. Je pense que j'y reviendrai. Je voulais juste avoir un petit peu de recul sur le retour entre guillemets à la viande. Ce que je mangeais principalement. Alors oui, j'en achète maintenant, mais pas tant que ça. C'était plus pour aussi avoir la flexibilité lorsque je sors et tout ça. Enfin bref, je me justifierai s'il le faut, et j'estime que je n'ai absolument pas à me justifier, dans un prochain épisode peut-être. Mais comme ça, je pose le truc, voilà, on cuisait aussi un petit peu nos petits morceaux de viande et tout ça. On pouvait faire cela grâce aux plaques qu'on avait, et puis on avait une bouilloire, on pouvait se faire notre café instantané, voilà, on est parti sur un café instantané parce que j'avais pris ma cafetière italienne, mais en fait, comme un blaireau, j'avais pas réalisé que ma cafetière italienne, elle se branchait dans une prise, et donc nous n'avions pas le 220 volts, et donc ma cafetière italienne n'a servi absolument à rien, tout comme le ventilateur qu'on avait pris. On a pris un gros ventilateur en mode « on va crever de chaud, vas-y, on prend un gros ventilateur de merde » et on n'a jamais pu l'utiliser parce qu'il fallait pouvoir le brancher. Et du coup, on a passé notre temps à vivre autour de ce gros ventilateur qu'il fallait jeter à l'avant, qu'il fallait jeter à l'arrière parce que on n'a pas trop de place, tu vois. Donc c'était ça a fait partie des apprentissages de bien savoir quel type de prise d'électricité on aurait le droit. Et heureusement, on n'a jamais eu chaud, on a même eu un peu froid parfois en dormant parce qu'on dormait dans les hauteurs un petit peu et tout, et qu'il faisait pas 30 degrés encore. Pas comme aujourd'hui, tu vois, parce que là, putain, je sais pas toi. Il fait 36 degrés actuellement. C'est peut-être le premier épisode de podcast que je fais en débardeur parce qu'il fait sacrément chaud sa mère. D'ailleurs, j'ai mon ventilateur là. Je fais des traitements de bruit pour qu'on n'entende pas le bruit du ventilateur normalement, mais t'inquiète, ça bombarde parce que là, je suis enfermé dans ma boîte de conserve pour que l'audio soit bon. Mais ouais, il faisait sacrément chaud, mais pas trop pendant ce voyage, donc c'était sympa. Et puis, voilà un petit peu comment on s'est démerdé avec notre nourriture. On était un peu autosuffisant comme ça. On aimait bien être autosuffisant, sortir nos petites poêles, faire notre petite tambouille au milieu de nulle part. Tu vois, c'est un mood un peu. C'est ça qu'on cherchait. On mangeait à la lumière de la bougie. Quand il faisait nuit, c'était des bougies à la citronnelle et tout, parce que j'aime autant dire que les moustiques n'étaient pas le point fort de ce genre de voyage. Voilà, ça fait partie des contres, je préviens tout de suite, mais on aurait pu s'en douter, parce qu'on avait des lumières à l'arrière, hein, des petites lumières qui étaient power grâce à la batterie externe pour téléphone, panneau solaire et tout. Batterie un peu illimitée, on dira. On pouvait allumer la lumière à l'intérieur quand on voulait, sans décharger la batterie du van, hein, je précise, c'était pas la même batterie que la batterie du moteur. Et je vais y revenir un tout petit peu peut-être sur cette batterie du moteur après. Mais voilà, on essayait d'éviter de se faire exploser par les moustiques concrètement. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dormait à la fin? Il y avait des occulteurs, des trucs avec des ventouses qu'on pouvait coller sur les fenêtres à l'avant, histoire que ça cache la lumière. Parce que quand tu te réveilles le matin, quand tu dors le matin et que le soleil se lève à 6h30, t'as pas envie d'être réveillé tout de suite parce que t'as le soleil dans la gueule et qu'il fait 40 degrés. Donc t'as des trucs un peu réfléchissants qui renvoient la lumière, tu sais, vers l'extérieur, que tu colles aux vitres avant. Les vitres, toutes les vitres arrière étaient teintées, mais en réalité, il faisait méga jour quand même. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Technique classique de coincer des linges dans les portières pour que le linge y pende, en fait, comme ça, tu vois, et qu'il puisse cacher la fenêtre. Aussi pour avoir un petit peu d'intimité, qu'on se le dise, parce que fenêtre teintée, d'accord, mais tu pouvais quand même un peu voir ce qui se passe dedans, surtout si tu passes juste à côté et que tu regardes dedans, bah tu vois tout. Ça a beau être un peu teinté, pour notre intimité, tu comprends, parce que on dormait quand même à l'arrière, etc. On était content de savoir que personne pouvait non plus nous voir en train de dormir ou autre, en train de manger, voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on dormait. Et puis la mission, c'était on ferme tout. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Moi, j'avais mon téléphone, je mettais la lampe de mon téléphone et j'éclairais comme ça vers le haut. Tu sais, quand t'éclaires vers le haut, en fait, tu vois un petit peu les poussières qui volent et tout ça. Ce que tu vois aussi, c'est toutes les petites merdes de moucherons et les petites merdes de moustiques qui ont réussi à être à l'intérieur. Et là, c'était mission extermination en ce qui me concerne. Ça faisait partie de mon rôle, voilà. Mon rôle était aussi de faire exterminateur de moustiques. Tu les regardes, tu les mâches, tu les vois, j'ai été sans pitié, voilà. Je pense que personne ne me tombera dessus quand je dis que je prends un malin plaisir à exploser les moustiques avant qu'ils m'explosent moi. Voilà. Et j'en ai eu pas mal. On s'est aussi fait exploser parce qu'il y en a qui sont plus malins que moi. Voilà, je ne suis pas le plus malin des moustiques, des exterminateurs. Il y en a qui ont gagné. T'inquiète, qu'on s'est bien fait bouffer quand même. Mais c'est vrai qu'on essayait de mitiger un petit peu les dégâts, on dira. Donc voilà, ça c'était pour l'histoire un petit peu de comment est-ce qu'on dormait. Je répète, on a bien dormi. Et pour terminer un peu sur la nourriture et tout ça, bah, au niveau de boire, bah, concrètement, on devait se fournir, voilà, comme je l'ai dit, aux fontaines publiques, aux toilettes publiques, etc. On a juste acheté 6 grosses bouteilles d'eau au supermarché au début. Comme ça, on avait des bouteilles en plastique, en PET, qu'on a pu re-remplir ensuite tout le long. D'une traite, parce que ça part vite quand tu fais tout avec la mémo, c'est-à-dire te brosser les dents, boire, la vaisselle, tout ça. Alors la vaisselle et tout, c'était d'autres bidons, mais c'est vrai que ouais, se doucher, hein, je sais pas si j'ai précisé, oui, il y avait une petite douche, voilà, oui, il y a une petite douchette en fait. C'était plutôt bien fait comme système. Je l'ai montré en story aussi si tu veux aller voir, mais en gros c'était un gros bidon avec une prise allume-cigare que tu pouvais brancher dans le van, qui permettait une petite pompe de marcher. T'avais un petit pommeau de douche que tu pouvais activer, ça crachait un jet un peu timide, hein, bien sûr, fallait pas s'attendre à un débit de fou. D'autant plus, t'as pas envie d'un débit de fou parce que l'eau, elle part vite. Donc la douche, t'apprends à faire ça vite fait. Ou alors, tu apprends à ne pas le faire. Ça, j'aime autant dire qu'on s'est entraîné aussi. T'as cru qu'on allait se doucher, tu vois. J'ai envie de dire, alors tu fais ça comme tu veux, mais c'est vrai, si t'es 40 000% à cheval sur l'hygiène de ton corps, par exemple, ça va être plus difficile. Ça va être moins agréable pour toi, ce genre d'expérience. Je te le dis tout de suite parce que peut-être que tu peux avoir une hygiène irréprochable. Oui, bon, bah, écoute, j'ai pas envie de nous faire passer pour des gros porcs non plus, mais. Mais en vrai, quand t'es deux personnes, un peu tout le temps les deux, que vous vous maintenez les deux dans le même état d'hygiène, qu'il soit bon ou entre guillemets moins bon, même si c'est tout à fait subjectif, nous ne sommes pas des gens sales, je précise quand même, hein, voilà, au cas où. Écoute, c'est pas dérangeant, hein, j'ai envie de dire, si jamais on sentait, ce qui n'est pas le cas, c'est vrai que j'ai pas l'impression de sentir, je pense qu'on me l'aurait dit. Le mec dit ça entre je m'essuie les aisselles en disant ça, tu sais. Ah, il fait chaud, excuse-moi, il faut que je m'essuie les aisselles de temps en temps parce que sinon ça. Ah, et voilà, il fait 36 degrés, comme j'ai dit. Des os. Mais je pense que voilà, ça allait à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on a fait des 2-3 jours sans trop se doucher parce que, bon, bah, parce que balèque, quoi. Pas envie, c'est chiant, faut sortir la douche, faut se foutre à poil. Ou alors en maillot de bain. Je tiens à préciser d'ailleurs, pendant que j'y suis, parce que c'est vrai qu'on avait trouvé des petits endroits où il y avait vraiment personne. Donc là, on a pu se doucher à poil dehors et tout. Donc c'était quand même sympa. Si c'est ton délire, je pose ça là, tu vois. Retour aux sources, alors moi, j'ai pas du tout le délire naturiste, tout ça, voilà, ça c'est pas notre délire. Mais bon, ma copine, elle aime bien un petit peu plus tout ce qui est... retour aux sources, on dira, énergie, connexion avec la nature, etc. Connexion avec les énergies, bon, elle en parlerait mieux que moi, mais voilà, c'est pas le elle est pas là pour en parler, voilà, désolé. Et je vais pas parler trop pour elle non plus, même si après je vais le faire un petit peu parce qu'elle m'a donné ses pour et contre qu'elle a vécu là-dedans. C'est vrai que c'est assez sympa, c'est vrai que c'est comme nager tout nu dans l'eau, dans la mer et tout, c'est un mood, je pense que tu arrives plus ou moins à te représenter si c'est le genre de mood que t'aimes bien, mais ça fait un petit peu plus retour à la nature, ne faire qu'un avec la nature, ça on va y revenir, mais ça fait partie des points qui étaient plutôt sympas, comme par exemple la fois où on s'est douché tout nu dehors, bah voilà, c'était marrant, tu vois, à quel moment est-ce que t'as déjà fait ça dans ta vie, te doucher tout nu dehors, dans la nature, bah tu le fais peut-être régulièrement. Moi, je le fais jamais. Je te le dis tout de suite. Je fais ça dans ma putain de douche, dans mon appartement. Je suis tout nu quand même, généralement, voilà, dans ma douche, je tiens à préciser. Mais voilà, on l'a aussi fait en maillot de bain, on l'a aussi fait assez rarement dans des endroits. On l'a fait une fois dans une salle de sport, parce que c'est vrai que bah, des fois, il a plu. Hein, on n'a quand même pas eu le meilleur temps du game. On a eu un jour et demi, deux jours de pluie, donc il a fallu s'occuper un tout petit peu une fois. Et la première fin de matinée où il pleuvait, bah, moi, j'ai proposé une activité tout à fait voilà, classique, touristique, plus, que tout le monde adore. Et si on allait à la salle de sport? Bon, ma copine n'a pas du tout été compliquée à convaincre. Au contraire, elle était contente. On est allé là-bas. On a payé notre day pass à la salle. Ça faisait 4 jours. Ça nous a permis de faire notre petite séance de sport chacun de notre côté. Parce que H24 ensemble, tu vois, c'est quand même pas trop mal de temps en temps de pouvoir voilà, te regrouper un peu de ton propre côté. Sachant que nous sommes deux personnes totalement introverties. Donc ça nous fait du bien aussi, même si on est très très bien les deux. C'est vrai que on a tous besoin d'être un peu seul de temps en temps, et ça fait partie des trucs. Voilà, désolé, j'ai pas de mots plus riches. Des trucs de ce genre de voyage que tu peux faire en couple, par exemple. Mais du coup, on a eu nos petits trucs. Voilà, on a pu faire nos petits yoga. Moi, j'ai pu faire ma grosse séance de bonhomme. J'ai fait mon gros full body que j'ai montré d'ailleurs dans les stories. Et ça, c'était bien sympa parce que derrière, on a pu aller prendre une vraie douche, on en a choisi un avec sauna, tu vois, parce qu'on s'est dit, bah vas-y, on se fait un petit kiff et tout. On va pas aller dans un vrai spa machin, parce que bon, ça c'était un peu overkill, surtout que au niveau des prix, c'est vrai que c'est quand même un autre délire, surtout que généralement la salle de sport elle pue, tu vois. Quand tu vas dans un spa ou une piscine et qu'il y a une salle de sport, bah généralement t'as des haltères jusqu'à 14 kilos, t'as un tapis de course et puis voilà, estime-toi heureux. Alors, j'exagère un petit peu, mais en gros la salle de sport c'était beaucoup mieux. Et on a pu aller faire chacun notre sauna de notre côté aussi, parce que les saunas n'étaient pas mixtes. Donc, on était pépère, tranquille. Il n'y avait personne en plus, à part quelques retraités et personne en vacances. Parce que bon, mois d'août, au milieu de la journée et tout. Et puis, ces villages étaient très peu remplis. Hein. Vraiment, j'étais particulièrement impressionné par le fait qu'il n'y avait pas grand monde dans ces villages. Alors, est-ce qu'ils sont en vacances? Est-ce qu'il y a juste personne? Est-ce qu'ils travaillent? Un peu de tout. Mais alors, putain, dans les rues de ces villes, de petits villages suisses allemands, il y avait air. Même dans les, entre guillemets, grandes villes, il y avait personne. C'était marrant. Je trouvais ça marrant. Donc, on a fait ça. Oui, on a aussi fait du sport, bien sûr. J'avais évidemment pris mon matériel Eric Fly, hein, évidemment. J'avais pris mes parallettes. J'avais pris ma ceinture. Non, j'ai pas pris ma ceinture. J'ai pris mes parallettes, ma magnésie, mes bandes élastiques et mes anneaux de gym. Et j'ai pu m'entraîner tout le long au poids du corps. J'ai fait quoi? 3 séances concrètement en tout. D'ailleurs, tu peux voir ça aussi dans les stories. C'était très pratique. Autant à la salle, bah moi à la salle, j'aime bien m'entraîner sur mes parallettes et tout. Donc j'ai pris mon matos à la salle. Autant une fois, on s'est arrêté au bord d'une rivière. C'était au Tessin. Et puis, on a choisi un petit spot où moi, j'avais quand même envie de trouver un spot comme ça. Tu vois, je me suis dit, il faut que je puisse faire ça quand même pendant mes vacances. On a trouvé un petit spot. Elle avait son petit tapis de yoga aussi pour faire ses flows et tout ça. Et moi, j'avais un bon petit arbre, un bon petit platane, je crois, un truc du genre. J'ai pu mettre mes petits anneaux, mes petites parallettes. J'ai pu me faire ma petite séance dans la nature, à côté d'une rivière. J'avais mes anneaux, j'avais ma magnésie, j'avais ma gourde, j'avais mes bandes élastiques. Je me suis fait mon petit délire où, en fait, avec 3 fois rien, en réalité, des anneaux, typiquement, si tu peux les accrocher, et que tu as, il faut quand même un minimum un niveau. Hein. Les anneaux, c'est des possibilités infinies, mais il y a un niveau prérequis quand même qui reste raisonnable, parce que si tu ne sais pas faire de traction, tu vas pouvoir apprendre, bien sûr, mais c'est vrai que tout ce qui est dips, par exemple, les dips sur anneaux, c'est compliqué, même si, à nouveau, si tu as des bandes élastiques en plus, eh bien, tu peux te délester, autant pour les tractions que pour les anneaux, que pour les dips, et ça va beaucoup aider. Et donc, ça suffit pour s'entraîner partout, poids du corps, un peu plus, en mode, à nouveau, retour aux sources, un peu minimaliste, comme ça. C'était génial, j'avais évidemment pris mon matos, j'avais pris mes chaussures de course, que j'ai utilisées pour aller courir aussi, parce que, écoute, c'est difficile de m'arrêter. Et c'est pas parce que je suis en vacances que, pour moi, les vacances, j'y reviendrai peut-être après, cet épisode va être long, putain. Les vacances, pour moi, c'est certainement pas, enfin, J'ai pas du tout envie de m'échapper de ma vie, bien au contraire. Il y a énormément de choses dans ma vie, si ce n'est tout, que j'adore. Et donc, c'est pas parce que je pars en vacances que j'ai envie de me détacher de tout, bien au contraire. Si je peux m'entraîner pendant mes vacances, les vacances sont encore meilleures, en ce qui me concerne, bien sûr. Donc j'étais très content de pouvoir faire ça. Avec mon matériel Eric Flagg, que j'ai obtenu sur ericflagg.com, bien entendu, là où tu peux obtenir le tien, que ce soit pour t'entraîner chez toi, à la salle de sport, dehors, dans des parcs de street, en vacances, dans un van, dans le fin fond de je ne sais quelle forêt où tu serais et où tu as pris ton petit matériel avec toi. Tu peux faire tout ça sur ericflagg.com, bien sûr, tu obtiens tous tes équipements, les meilleurs, tout simplement, les meilleurs. On est à presque 900, on a dépassé les 900 avis sur Trustpilot, à plus de 4,7 de moyenne, plus de 110 000 clients depuis. Et la fin d'année s'avère magnifique parce qu'on prépare à une grosse sortie de nouveaux produits, un produit lourd à nouveau, qu'on a pris beaucoup de temps à designer, mais qui on espère, devrait plaire, qui devrait sortir sur cette fin d'année. Je ne sais pas encore exactement quand. On est en pleine production, ou on est sur la fin de la production, je ne sais plus exactement, mais ça ne va pas tarder à arriver. En tout cas, d'ici les fêtes de fin d'année, ça devrait être là. Voilà, ericflagg.com, merci beaucoup pour le soutien, parce que, évidemment, ça soutient aussi mon travail, en plus de tous tes progrès sportifs. Donc voilà un petit peu comment on a pu faire notre sport, c'était plutôt sympathique. Et puis voilà où un petit peu pour les paramètres de style de vie principaux qui me viennent en tête à ce niveau-là. En plus de cela, comme je l'ai dit, ce voyage, on était les deux, on était H24 un petit peu ensemble. Tu peux te douter que quand tu es coincé, entre guillemets, avec quelqu'un non-stop pendant plusieurs jours à la suite, que ça impacte, en quelque sorte, votre relation. Tu vois, une autre image qu'on aurait pu faire ou qu'on est plus familier, c'est pendant un certain confinement qu'on aurait pu peut-être avoir eu à subir dans les dernières années. Ça a pu se faire, des personnes qui n'avaient l'habitude de se voir que entre le travail et les habitudes et les machins, se sont retrouvées coincées toutes les unes avec les autres. Certains couples se sont retrouvés, entre guillemets, coincés. C'est à défaut d'un meilleur terme, l'un avec l'autre. Et ça a forcé à passer plus de temps ensemble. Ça a forcé certaines choses. Ça a forcé à coincer ou décoincer certaines choses, que ça soit, entre guillemets, avec une issue plus positive ou une issue plus négative. Moi, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est extrêmement bien, que s'il y a besoin que ça se passe, il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut absolument prévenir. Il faut passer son temps à prévenir. Et c'est pas censé être négatif. Au contraire, tout ça pour dire que ce genre d'expérience, si tu l'as fait en couple, je pense, et que tu l'avais jamais fait, etc., forcément, tu vas apprendre à connaître l'autre personne d'autant mieux, à vous connaître tous les deux ensemble d'autant mieux. Et pour nous, ça a été particulièrement, particulièrement positif. Pas qu'il y avait d'attente particulière en mode « Ouh là là, le gros test, ça y est, on teste le truc ». Écoute, ça, on peut voir ça comme un test si on veut. Ça restait quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement nouveau pour nous et pour notre relation aussi, tant qu'à faire. Qui a moins d'un an, mine de rien, juste pour rapidement poser certains contextes quand même. C'était clairement la première fois qu'on faisait ça aussi longtemps, l'un avec l'autre, etc. Évidemment, par rapport au style de vie, ça incombe certaines choses, tu vois. Il faut aller... l'intimité personnelle restait quand même... restait plus limitée, évidemment, plus limitée, comme tu l'as bien compris. Mais c'était très bien et on pourrait dire que c'est quand même un genre d'accélérateur parce que évidemment si tu fais 12 jours normaux avec ton ou ta partenaire de 12 jours normaux de vie avec ton ou ta partenaire versus 12 jours intensifs, on dira, où t'es non-stop ensemble à vivre, à manger, à dormir, à planifier, à devoir s'organiser, à devoir se mettre d'accord sur qui fait quoi, se mettre d'accord sur bon, on va où, on fait quoi, on dort où, on mange quoi. C'est le genre de choses qui sont très importantes dans un couple sur lequel être d'accord, se mettre d'accord, communiquer, ne pas accumuler de ressentiments envers l'autre parce que « vas-y, c'est toujours moi qui fais ça, blablabla, ça me casse les couilles » et t'en parles pas. Hein, c'est là tout le problème. Hein. Que ça te casse les couilles, c'est une chose. C'est tout à fait normal et compréhensible. Mais alors, il faut absolument en parler et désamorcer très, très, très rapidement. J'aime penser que dans ma relation, nous sommes tous les deux très matures, tous les deux très au clair sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on recherche. Et ce qu'on recherche, nous sommes extrêmement clairs l'un avec l'autre depuis le début, qu'on veut une relation incroyablement stylée. Je vais pas le cacher parce que c'est complètement vrai. C'est extrêmement important pour moi. C'est encore plus important pour elle. J'ai envie de dire dans le grand espace de nos vies. Avec ma copine, on parle énormément. On parle beaucoup. On parle quasiment tout le temps. Très souvent, c'est une de nos activités de couple préférées, si ce n'est notre activité préférée. Spécialement pour elle, au début, elle m'en voudra pas de dire ça parce que c'est vrai et au contraire, enfin, je vais dire évidemment qu'il y a aucun mal. Au contraire, je suis très content que ça ait été le cas parce que c'était un peu moins mon cas. Voilà, si je puis me permettre le cliché. Alors bon, il faut que je fasse attention peut-être à où je vais avec ça parce que c'est vrai que les relations de couple ou les relations hommes-femmes, on dira. Sont pas mal discutés peut-être aujourd'hui dans la culture actuelle, dans les médias, etc. Il y a évidemment différents points de vue, tout ça. Moi, dans le fond, j'ai envie de dire, chaque couple fait un peu ce qu'il veut, quand ça ne concerne que lui, quand on parle de sa relation à lui, de sa répartition des tâches à lui, par exemple. Je n'aime pas du tout, le fait qu'on impose évidemment à des personnes. Oh, il faut que ça soit comme ça, que ça soit réparti comme ci, comme ça, etc. En tout cas, dans mon couple, ce qui j'aime penser me concerne quand même pas mal. J'aime penser que on est deux adultes qui sommes tout à fait capables de nous organiser tout seuls, de nous mettre d'accord entre nous sur comment est la meilleure façon de fonctionner pour nous. Voilà, je pose ça là, ça ne concerne que moi, ça ne concerne que nous, pour ce que je partage qui nous concerne nous, on dira. Mais voilà, je pose quand même ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de dire que c'est important de... Oui, j'étais en train de dire qu'on parlait beaucoup et que c'était un petit peu plus elle de base et que moi, j'étais un petit peu plus du genre, si je puis me permettre, à moins dévoiler mes émotions, comment dire. Je suis quelqu'un, si tu écoutes le podcast depuis longtemps, je pense que tu as remarqué que j'ai pas spécialement de mal à ressentir des émotions. Au contraire, c'est quelque chose que je cultive énormément. C'est très important pour moi d'avoir les deux. Pour moi, c'est super important que j'ai les deux, que je sois capable de foncer dedans, de déconnecter mon cerveau, mes émotions, de déconnecter mon ressenti quand il faut que j'aille courir et j'ai pas du tout envie d'aller courir, quand il faut que je travaille, quand il faut que je taffe sur ma carrière, que je fasse des trucs où je tape dedans, que j'aille pousser des poids lourds et tout ça. Très important. J'y vais, je réfléchis pas, je casse tout. Pour moi, c'est super important de pouvoir tout casser. J'ai envie de pouvoir tout casser dans ma vie. Voilà. Ceci, évidemment, avec certaines limites. Et certainement pas en brimant, en enfouissant, en supprimant ma capacité d'émotion, d'empathie, de compréhension sociale de la personne d'en face, de comprendre que la personne d'en face ne cherche peut-être pas toujours une solution logique à ses problèmes, mais qu'on est plus dans l'émotionnel et que j'ai envie de pouvoir connecter avec cet aspect émotionnel. On a tous un peu notre équilibre, on dira peut-être rationnel, émotionnel. Voilà, yin, yang, etc. Je reviendrai là-dessus sur... peut-être dans d'autres épisodes un peu plus dédiés, parce que c'est quand même un sujet sur lequel j'étais très intéressé depuis le début de cette année. Les énergies, on dira, masculines et féminines, si je puis me permettre de les appeler comme ça, parce que c'est souvent comme ça qu'elles sont appelées, même si, évidemment, c'est quelque chose qui ne plaît pas énormément, parce que dès qu'on se... Enfin, tu vois, masculin, féminin, homme, femme, ce sont des sujets qui sont pas mal discutés actuellement. Je pense que tu es au courant. En tout cas, moi, je suis au courant. Et où est-ce que j'en étais? J'étais en train de dire que c'est très important pour moi aussi d'être totalement ouvert, de pouvoir me montrer vulnérable lorsque c'est nécessaire, important, notamment avec ma partenaire. Ça, c'est d'autant plus important. J'en étais à là pour dire qu'on passe énormément de temps à parler, que c'est une de nos activités préférées, parce que c'est ce qu'on fait souvent le soir, tu vois. Le soir, qu'est-ce qu'on fait? De temps en temps, on regarde un épisode, parce qu'il y a beaucoup de couples qui regardent des épisodes, je pense. On a une série qu'on regarde de temps en temps, parce que c'est vrai que de temps en temps, pour déconnecter, on regarde un épisode en train de manger ou pas. Mais très souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est aller au lit plus vite pour parler. Parler parfois une jusqu'à 3-4 heures de suite, etc. Parce que tous les deux, on savait aussi ce qu'on recherchait dans notre relation. Et parler avec l'autre. Pas que parler, hein, je tiens à le préciser, il y a différentes formes de communication. Parler et sexe, hein, voilà, parce que je vais pas être trop cru dans ce que je dis, c'est pas mon but, mais ce sont deux choses qui sont importantes de faire, je pense. Deux choses qui sont importantes de faire. À mon humble avis, bien entendu, pas que tout le monde devrait le faire. Je ne juge pas les relations des autres, mais nous sommes d'accord sur le fait que ça soit deux choses importantes qui nous permettent d'apprendre à nous découvrir sous notre jour le plus vulnérable, même parfois, notamment dans certaines situations, situations extrêmement intimes, par exemple. Je vais pas creuser trop loin dans cet épisode parce que, écoute, je vais peut-être pas tout mélanger, mais c'est vrai que, quitte à parler du fait qu'on soit parti en couple, etc., voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire. Oui, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Écoute, ça, peut-être j'en parlerai dans un autre épisode, ça peut être intéressant, n'hésite pas à me le dire si jamais ce genre de sujet t'intéresse. Tu peux m'envoyer un DM @ericflag sur Instagram. D'ailleurs, je vais ouvrir le compte du podcast. Tu peux même aller écrire un DM au compte du podcast. Allez, vas-y, je le balance maintenant. Peut-être que c'est déjà le cas. Le podcast va changer de branding. La photo de couverture, je l'ai refaite. Tout le branding du podcast va changer. J'ai ouvert un compte Instagram @ericflagpodcast. On va poster des extraits du podcast régulièrement dessus parce que, écoute. J'aime penser que ce podcast contient des messages qui valent la peine d'être partagés, sinon je le ferais pas, hein, par définition, comme nous tous qui créons des trucs, c'est parce qu'on a envie que ça soit vu. Et du coup, je vais essayer de favoriser la découvrabilité du podcast en créant des formats plus courts, des extraits, des épisodes, et d'autres choses, tout ce qui concerne précisément le podcast, je pourrais en parler là-bas. Donc si t'en as rien à foutre de moi et de ma life, mais que juste le podcast t'intéresse, ou alors tu peux aller rejoindre les deux, mais tu peux aller m'envoyer un DM @ericflagpodcast si jamais creuser un petit peu plus précisément ce genre de sujet de couple, c'est quelque chose qui t'intéresse, ou au contraire, si t'es pas du tout d'accord et que t'as envie t'as pas envie qu'on en parle, etc., écoute, si je demande ton avis, c'est que je prends ton avis, quel qu'il soit. Quoi qu'il en soit, je le prends toujours avec plaisir, ça fait plaise. Pourquoi je parlais de ça? Parce que forcément, c'était une composante importante de ce voyage. On était ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble. Il y a eu quelques petites pauses, notamment voilà, quand on a fait notre sauna, quand on était à la salle, quand je suis allé courir, j'ai fait une ou deux sorties de course. Non, une. Je courais pendant les randos, mais tu vois, c'était des petites courses. C'est vrai que quand je courais, parfois... elle courait pas et on s'attendait un petit peu après, ça nous permettait d'avoir des petits moments tranquilles aussi. Donc on a eu quelques petits moments où on était seuls comme ça, où c'était quand même sympathique de pouvoir se regrouper un petit peu seul avec soi-même, chacun de son côté. Mais sinon, globalement, on était toujours ensemble. Comme je l'ai dit, on a passé beaucoup de temps à parler, c'était génial. Ce qu'on faisait pendant la route, c'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi. Je te balance ça comme ça. Vu qu'on a fait entre guillemets beaucoup de routes, alors c'était pas énormément de routes, mais on en a fait. Ce qu'on aime bien faire quand on fait de la route, c'est soit parler. Oh là là, première nouvelle. Soit parler, mais ce qu'on aime bien faire, c'est écouter des podcasts sur différents sujets, des podcasts de couple, des podcasts que moi je propose, des podcasts que elle propose. Et voilà, sans trop, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais on écoute des podcasts sur des sujets tout à fait variés, des choses que j'aurais jamais écoutées par moi-même. Très intéressant de s'ouvrir à des nouvelles choses, des podcasts sur les relations, des choses comme ça, voilà. J'ai découvert un peu tout ça et je trouve ça très, très important, beaucoup plus important que j'aurais aimé le penser peut-être il y a quelques années de cela. Mais j'ai toujours su que ma relation, mon couple, et donc par extension plus lointaine, ma famille, mes enfants, mon foyer... C'est un des points les plus importants de ma vie, hein, à terme en tout cas. J'ai certainement pas envie de tout mettre dans le sport, de tout mettre dans le professionnel, de juste être le mec le plus riche, et puis derrière tout le monde me déteste. Enfin, tu vois, personne n'a vraiment envie de ça, j'imagine, sur le papier, mais ça peut arriver quand on fait pas, quand on fait pas attention, on dira, de garder un certain équilibre. Ma relation est très très importante. Et donc voilà, il faut faire les choses bien, et il y a plein de choses à apprendre, plein de choses que je ne connaissais pas, bien entendu, parce qu'on peut pas tout apprendre en même temps, et j'avais beaucoup de travail à faire sur moi-même en premier temps dans ma vie, j'aime penser, pour que ensuite le travail que je puisse faire sur une relation soit d'autant plus important et d'autant plus valuable, qui est d'autant plus de valeur. Et ça, je pense que ça correspond quand même assez souvent. Que travailler sur soi, entre guillemets, c'est travailler sur soi, c'est très très large, ça veut pas juste dire obtenir des plus gros bras, avoir plus de thunes ou quoi. Là, on parle vraiment, ça peut être créatif, pro, spirituel, thérapeutique, même psychologique, etc. Enfin, n'importe quoi. C'est banger, je pense. Et bref, ça, c'est des choses qu'on a fait tous les deux déjà de notre côté en ce qui concerne ma relation. Et donc, derrière, on est très content de pouvoir parler d'un maximum de trucs le plus vite possible, parce que c'est génial, parce que ça permet d'apprendre à connaître l'autre le plus possible, le plus profondément possible, pour savoir à quel point on est compatible, est-ce qu'on est d'accord sur les choses les plus importantes, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, etc. Quels sont nos centres d'intérêt, qui n'ont évidemment pas à être les mêmes, quelles sont nos ambitions, nos rêves dans la vie, quelles sont les choses qui sont importantes pour chacun d'entre nous, est-ce que on pense que ça peut cohabiter sans souci dans une relation où chacun puisse à la fois s'épanouir personnellement, mais d'un autre côté, s'épanouir en tant que couple, s'épanouir en tant que couple, en tant que parent, mais couple en même temps, parce que ça doit pas être facile de jongler entre on est parent maintenant et bah en fait on reste aussi un couple avec une relation pas juste de colocataires qui travaillent ensemble, de coéquipiers qui travaillent ensemble pour élever des enfants. Tout ça, je me réjouis énormément de pouvoir le découvrir et l'apprendre, hein, parce que purée, ça doit pas être évident, mais c'est extrêmement important à mes yeux. Et je ne m'avance absolument pas en disant que c'est encore plus important aux yeux de ma copine actuellement. Aux yeux de ma copine, quoi. Donc, effectivement, on passe beaucoup de temps à parler de tout ça. C'est génial, donc je ne peux que recommander. Je ne sais pas exactement à quel point c'est lié avec ce podcast, mais je me dis, voilà, ce podcast servira de préambule ou de premier épisode un petit peu où ça parle un petit peu plus de relations de couple, quoi. Je vais pas parler que de ça dans le podcast, mais bon, le podcast développement physique mental, développement de ses relations avec soi-même et les autres, eh bien c'est relativement large, c'est tous les sujets qui me passionnent dans la vie, c'est tous les sujets que je trouve très intéressants, que j'ai envie de développer en ce qui me concerne, et bah évidemment j'ai envie de créer des trucs sur les choses qui me passionnent. Donc j'espère que ça te parlera. De toute façon, je prends ton feedback et je ferai au mieux avec ce que moi j'ai envie de faire aussi, bien sûr. Mais voilà, on a aussi une fois, à un moment donné, on s'était juste arrêté une après-midi, on n'avait pas vraiment envie de faire des activités, on s'est juste posé, on a passé peut-être 2-3 heures à parler à l'arrière du van, tranquille, comme ça. Et c'est là qu'on a parlé justement de ce qu'on pensait de la van life. En fait, toi, c'était quoi tes attentes sur la van life et tout? C'était vers la fin du séjour. On a pu partager nos attentes un peu qu'on avait sur, bah, en fait, on pensait que c'était quoi de vivre dans un van. On a partagé un peu nos pour et nos contre et on a résumé un peu le truc en mode, bon, ok, parce que comme je l'ai dit au début, ma copine se voyait peut-être un jour romancer un petit peu l'idée, peut-être un jour de vivre dans un van pour une certaine période de sa vie, etc., etc. Ça n'a jamais été mon cas, clairement. Moi, je me suis jamais vu vivre dans un van, tu vois, mais c'était intéressant, évidemment, de comparer un petit peu nos expériences, de parler, d'apprendre du coup à se connaître, de refléter sur cela, sur l'expérience. Nous, on aime bien, hein, voilà, on aime bien réfléchir, on aime bien l'introspection, on aime bien parler, on aime bien apprendre. On s'est bien trouvé, j'aime penser, en tout cas. Jusqu'à présent, putain. Effectivement, voilà. Mais, ouais, je sais pas trop où... ouais, enfin bref. Voilà. Donc, je vais passer un petit peu à la suite. Je vais parler un petit peu de nos attentes qu'on avait là-dessus. Comme ça, je peux te poser un petit peu nos conclusions. Voilà, on va arriver sur les conclusions un petit peu de tout ça. Nos conclusions des pour, des contre, de nos attentes et de ce qu'on a pensé au final de cette expérience van life. Si on voulait le refaire, est-ce qu'on se verrait faire ça? Quels sont les points positifs et négatifs, on dira, de ce style de vie qu'on a pu voir ou qu'on peut imaginer à plus long terme. Comme ça, ça peut peut-être t'intéresser si c'est quelque chose qui te tente. Alors, pour ce faire, je vais commencer d'abord par moi, mon expérience à moi, et ensuite je parlerai de celle de ma copine. Elle m'a transmis, c'est par écrit, elle m'a transmis d'ailleurs. Je lui ai demandé, ouais, vas-y, tu peux me résumer ça, et puis elle m'a envoyé ça par écrit. Donc j'ai quelques notes, etc. En ce qui me concerne moi, mes attentes vis-à-vis de la van life, ben comme j'ai dit, j'en avais pas trop. J'avais pas trop d'attentes. J'avais jamais fantasmé dessus. Je m'étais jamais dit, tiens, j'ai trop envie de vivre comme ça une fois dans ma vie. J'aime beaucoup le côté minimaliste. J'aime beaucoup le minimalisme. J'aime bien ne pas posséder trop de trucs. C'est clairement quelque chose qui est assez central dans la van life. On dira, si tu possèdes 15 millions de trucs, c'est difficile de les garder avec toi, parce que là on parle de quelque chose un peu plus, voilà, il y a les vacances dans un van, et puis il y a la van life, on dira, que moi je n'ai jamais fait, hein, j'ai jamais goûté à ça, j'aurais envie de dire, là on parle vraiment de vivre dedans à moyen terme, donc au moins un mois, j'ai envie de dire, mais plutôt plusieurs mois, voire peut-être plusieurs mois dans l'année, etc., enfin je sais pas exactement. Mais voilà, après, clairement, pour moi, ça n'a jamais été viable dans ma tête d'un point de vue de mes objectifs de vie. Donc j'ai aucune intention de faire ça. Et jamais j'aurais pensé à faire même un voyage en van tout seul, tu vois. Aucun intérêt en ce qui me concerne d'aller faire des vacances tout seul dans un van. Voilà, ça c'est purement personnel. J'avais pas vraiment d'intérêt à ce niveau-là. Mais j'étais très content de le faire à deux, parce que c'était très nouveau et pour tout ça. Les points positifs que j'ai remarqués à ça, c'est que effectivement, bah, c'est spontané. Ça fait un petit peu du bien. Moi qui suis quelqu'un d'assez organisé, d'assez consciencieux quand même dans ma vie, même si je suis pas du tout du genre à avoir un agenda super précis avec à X heures je fais ça et ça. C'est pas du tout mon cas. Mais c'est vrai que là, un petit peu y aller en mode YOLO, c'est sympa, en mode on sait pas où on va dormir, tu vois, ça change un petit peu. C'est cool. Tout comme le mood un petit peu, on prend son temps, on n'est pas stressé, parce que tout prend beaucoup plus de temps, hein, qu'on se le dise, ça on s'en est bien rendu compte. Tout prend beaucoup de temps, parce que tous les jours il faut mettre les occulteurs, il faut coincer les trucs, il faut mettre le drap sur le lit, il faut virer toute la merde qu'on avait mise sur le lit pour la mettre à l'avant ou sous le lit pour qu'on puisse dormir. Il faut préparer à bouffer, il faut tout laver, enfin bref, tout prend du temps, il faut savoir où on va dormir, ça prend du temps de se demander, de chercher l'endroit où on va dormir, bref. Heureusement qu'on a le temps, j'ai envie de dire, parce que voilà. Après, je pars du principe que quand tu aimes ce genre de style de vie, c'est que effectivement, tu es plutôt à la recherche d'une vie, on dira un petit peu plus tranquille, où on a le temps, où on n'est pas stressé, plutôt qu'une vie où vite, il faut accomplir des trucs parce qu'on n'a pas le time là. Accomplir des trucs, c'est pas vraiment idéal. Et ça viendra peut-être dans les points négatifs, si je puis me permettre. Ouais, tu vois, c'est positif, négatif, tu vois. C'est pas comme si on avait vécu 3 mois dans un van et que je pouvais te sortir les vrais points positifs, négatifs. Mais voilà, on fait une petite liste. Ça ne mange pas de pain. Prends ça comme c'est, si ça peut te servir ou t'intéresser un petit peu. Ou comparer à ton expérience, si tu l'as déjà fait, parce qu'évidemment, des gens, tu m'écoutes et tu l'as peut-être déjà fait, t'as déjà ton avis. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand même le mood un petit peu. Bah, on est dans notre petit cocon tous les deux. On est en dehors du monde. Il n'existe plus que nous. On peut regarder les étoiles tous les deux le soir, la nuit, dans un endroit un peu sauvage où il y a personne autour. On n'est pas dans une ville. On n'est pas dans un. Ça, c'était propre aux endroits où on a décidé de dormir. Après, je pense que les gens qui font ça n'ont pas envie de rester en ville tout le temps. Clairement, c'est super chiant d'être en ville avec un gros van. C'est pénible à conduire, à parquer et tout. Les parkings souterrains, il faut qu'ils soient suffisamment hauts pour que tu puisses entrer dedans en plus. Enfin bref. En plus de ça, le côté liberté géographique, évidemment, c'est un plus. C'est un plus qui fait intégralement partie de ce genre d'envie de vivre, hein, j'imagine, et de voyager. C'est que tu peux bouger un peu comme tu veux. Alors oui, t'es quand même en voiture, donc tu vas pas te déplacer super vite d'un pays à l'autre comme ça. Si t'as un temps limité pour visiter un maximum de trucs et cocher un maximum de cases, bah c'est peut-être pas nécessairement idéal, tu vois, on est d'accord. Mais c'était un moyen de le faire en prenant plus de temps, en dépensant peut-être même moins d'argent, parce qu'il faut reconnaître que c'est un style de vie qui, je pense, peut ne pas être particulièrement onéreux. Après, ça dépend évidemment, ça peut coûter extrêmement cher aussi, tout dépend ce que tu fais, bien entendu. Mais disons que le loyer et tout, bon, bah, il faut avoir un van et il faut payer l'essence, quoi. Voilà, concrètement, c'est un peu ça le loyer. J'ai l'impression, plus évidemment, entretenir le van, voilà, un peu comme t'entretiens une caisse si t'en as déjà une, mais voilà. Donc ce côté de liberté géographique, c'est plutôt sympa. Le côté aventure, le côté un peu interdit, oulala, qu'est-ce qu'on va trouver au bout? Est-ce qu'on a le droit de dormir ici ce soir? Probablement qu'on a le droit de dormir ici ce soir. Mais on n'est pas sûr et certain. Il y a quand même une nuit, en fait. Bah, c'était la nuit où je me suis entraîné au bord de la rivière et tout. Il y a une nuit où j'étais en train de m'entraîner sur mes anneaux, justement. Ma copine était au bord de la rivière. Et là, je vois passer des flics. Les flics passent à côté comme ça. Et on était vraiment dans un coin, mais paumé de chez paumé. Je me suis dit, non, mais personne peut passer là. Les flics passeront jamais là. Et les flics sont passés, ils ont rien dit. Et je me suis dit, oulala, est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'ils sont très sympas ou est-ce qu'ils sont très sympas, parce qu'il me semblait que c'était pas permis quand même, voilà. Pas sûr, hein, toujours, mais c'était un parking, c'était un parking d'une entreprise un peu au bord de la rivière, bref, en zone industrielle un peu, mais avec le côté rivière et tout. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont pas repasser à 1h du mat juste pour bien nous mettre dehors au moment où ça fera le plus mal. Et non. Ce n'était pas le cas. Donc merci messieurs les grazie, messieurs ou mesdames et messieurs les policiers, policières, de ne pas nous avoir de nous avoir laissé là en tout cas. Mais pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, je disais ça parce que voilà, le c'est l'aventure, quoi. T'es pas sûr de ce qui va se passer, tu sais pas peut-être si hein, une fois tu vas te faire réveiller au milieu de la nuit pour qu'on te demande gentiment ou moins gentiment de partir. Voilà, en tout cas ça ne nous est pas arrivé. J'ai bien aimé le mood de... j'ai beaucoup aimé la connexion avec la nature, mine de rien. Même si je suis pas nécessairement le mec le plus YOLO, je vais aller m'allonger tout nu dans la terre pour ressentir la connexion profonde avec mère nature, tu vois. J'avoue que j'aime bien quand même ce genre de choses. Quand je pars en vacances, j'ai pas envie d'aller dans une grande ville. Ça ne me ressource pas du tout d'aller dans une grande ville. Moi, je préfère justement l'opposé de ce qui, pour moi, représente plus le stress, peut-être. Le stress de la grande ville. Je préfère clairement faire des vacances un peu plus dans ce genre-là. Et typiquement, ce jour-là, à nouveau, après l'entraînement sur les anneaux et tout ça, eh bien, il y avait la rivière à côté. On est allé dans la rivière faire un petit bain, elle était fraîche, elle était bien fraîche. D'ailleurs, j'ai une story aussi sur Instagram à ce propos, où je suis dans la rivière après l'entraînement. Très très cool d'être au milieu d'une rivière, dans les cailloux, il y a une espèce de petite cavité, entre guillemets naturelle, entre deux cailloux, j'étais dedans, l'eau qui coule autour, elle est fraîche, on était juste après l'entraînement, c'était vraiment génial. Franchement très cool d'être dans la rivière, dans les montagnes. On a fait beaucoup de randonnées, on est allé dans des endroits où il y avait même pas de voiture, on a trouvé des villages où il y avait même pas de voiture. Il fallait 1h30 de marche pour y arriver. Je me demande mais qui vit ici quoi? Et il y a des gens qui vivent là. Ce que je me permettrais de les appeler des paysans suisse-allemands souvent. Parce que qu'est-ce qu'ils font là-bas les mecs? Ils ont leur petit bétail, ils ont leur petit terrain et putain, ils vivent dans leur coin. Et moi j'aime bien ce genre de, j'idéalise plus justement ce genre de style de vie en mode j'ai ma petite maison tranquille dans mon coin plutôt que l'autre extrême, on dira. C'est plus quelque chose qui me plaît. Peut-être aussi mon côté introverti où j'aime bien être tranquille chez moi. Ça ressemble à mon style de vie actuel. Hein. Je suis chez moi, très souvent seul, à créer mes trucs dans ma chambre chez moi tranquillement. Et de temps en temps, je vais voir d'autres personnes quand j'en ai besoin. Mais c'est vrai que je préfère passer du temps un petit peu plus tranquille, généralement. Donc ouais, gros point positif à ce niveau-là. Et puis évidemment, le gros point positif, j'ai beaucoup aimé passer ces moments avec ma copine pour le coup. Donc les points négatifs maintenant. Impossible dans ces conditions de travailler efficacement si c'est ce que je devais faire. Impossible d'avoir une routine que j'appellerais efficace et productive. J'ai l'impression, en tout cas, ça tombe bien. Hein, je voulais pas devenir van life, hein, clairement. Pour des vacances, c'était très rafraîchissant en ce qui me concerne, mais pour me projeter à vivre, pas du tout, quoi. Donc, pour vivre sa vie tranquille, ok, mais pour optimiser un peu ce que tu veux faire dans ta vie, entre guillemets, accomplir beaucoup de choses, voilà, peu importe ce que c'est, pas très efficace. Et donc, moi qui préfère me dire que j'ai envie d'accomplir beaucoup de choses, on dira, ça ne me correspond pas du tout, je pense. Il y a un sentiment de liberté, certes, mais nettement moins stylé que... Alors, c'est très personnel ce que je vais dire, mais dans ma vie actuelle, actuellement là, dans mon travail et tout, dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de liberté que j'en avais dans ce van, en fait. Je vais résumer simplement à cela en disant que j'adore énormément ma vie, la vie que j'ai, que je me suis construite aussi également, et je n'ai pas du tout envie de m'en échapper. C'est pour ça que partir en vacances, pour moi, c'est cool pour déconnecter un petit peu, mais j'adore rentrer de vacances. Vraiment, rentrer des vacances, c'est une des parties que je préfère parce que je préfère ma vie aux vacances, concrètement. Je suis bien content de passer beaucoup plus de temps à vivre ma vie qu'à être en vacances. Parce que les vacances, c'est cool, mais c'est aussi pour soutenir ma vie, j'aime penser. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Ça me permet de décompresser, déconnecter pour revenir d'autant plus dans ma vie que j'adore et dont je ne souhaite pas du tout m'échapper, bien au contraire. Donc voilà, ça reste à ses limites niveau hygiène et confort. On se le dise à un moment donné, surtout à moyen long terme. Déjà là, au bout de 12 jours, forcément, il y a de plus en plus de vêtements sales, il y a de plus en plus de trucs qui traînent un peu, il faut les pousser encore plus. Alors, on était relativement bien organisé, mais il faut quand même les pousser encore plus, certaines merdes pour dormir le soir, tu vois. J'exagère un peu, mais voilà, enfin, un petit peu, quoi. On jetait les trucs à l'avant, comme je dis, certains trucs, on les jetait à l'avant. À la fin, on n'avait plus rien à foutre, on les jette à l'avant. De toute façon, on va devoir tout bombarder dans nos sacs de vêtements sales à la fin ou dans nos valises pour rentrer. Et puis l'hygiène générale dans le van, il faut faire le ménage un peu, etc. Enfin bref, je me dis que ça à moyen long terme, ça demande une certaine organisation et un certain confort et hygiène qui pourrait manquer quand même. Hein, on va pas se mentir. À plus long terme, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller faire sa lessive. Je sais pas, tu fais comment ta lessive? Tu vas la faire dans une rivière en tapant sur tes vêtements avec des briques et tout. C'est comme ça que j'imaginais qu'on le faisait à l'ancienne, tu sais. Dans une rivière et tout ça. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que moi, j'aime bien le confort technologique moderne, hein, tu vois, je vais pas mentir. Hein. Clairement, le lave-linge, franchement, je le prends avec volontiers. Le lave-vaisselle aussi, d'ailleurs, je vais pas mentir. Quand on est malade, qu'est-ce qui se passe? Quand on vit dans un van, la vie sociale régulière, la vie familiale, c'est un peu limité. Ta famille, est-ce que tu la vois souvent? Je sais pas si tu voyages tout le temps. Tes amis, tu t'en fais sur la route. Mais alors dans ce cas, faut aimer se faire des amis sur la route et peut-être avoir plus de mal à entretenir des relations profondes avec ces gens si en fait tu bouges beaucoup et que voilà, tes potes de chez toi entre guillemets, tu peux plus trop les voir. Voilà, ça me semble important à considérer. La garde-robe pour différentes saisons, là on n'avait que des vêtements d'été, quand tu leur ajoutais tous les manteaux, tous les machins, toutes les bottes, tous les trucs, ça prend de la place, comment tu t'organises, ouais. Chaud, s'il fait méga moche 3 jours de suite, tu dois rester dans ton van 3 jours de suite un peu, ok, je sais pas, sans parler d'avoir des enfants, je me projette à long terme, tu vois, mais... tout est faisable, hein, je pense, tout est faisable, bien sûr, il suffit de s'organiser, il faut avoir envie, mais moi, ça ne me tente pas vraiment. Et un dernier point négatif, sur lequel on n'était pas vraiment d'accord avec ma copine pour le coup, c'est que j'ai quand même eu un petit peu un sentiment, à certains moments, d'être un peu un parasite. Je m'explique, j'ai l'impression, j'ai même utilisé le terme sensu quand j'en parlais un peu avec ma copine pour rigoler, en mode, mode sensu activé. C'était quoi pour moi le mode sensu? C'est que, ok, retour aux sources, on est indépendant, petit cocon, on sort du système. Bon, on sort du système, oui, jusqu'à ce qu'il faille aller dans un supermarché pour acheter des aliments plus ou moins emballés dans du plastique, par exemple. Jusqu'à ce qu'il faille trouver des toilettes publiques pour vider notre eau, pour remplir de l'eau. Jusqu'à ce qu'il faille trouver des fontaines pour aller pomper de l'eau, en fait, hein, littéralement. Oh, il y a une fontaine, vite, on peut aller pomper notre eau, on peut aller remplir nos bouteilles et tout ça. Des toilettes pour aller poser nos histoires de temps en temps, même si on peut faire ça dehors, et ça c'est un point quand même assez important, des poubelles, trouver des poubelles publiques, parce qu'à un moment donné, on crée des déchets, bien entendu, après il y a le côté zéro déchet, tout ça, alors là c'est vraiment un style de vie encore plus à organiser, on n'a pas testé ça, hein, je vais pas mentir, même si évidemment on a toujours bien fait attention, on a bien ramassé tous nos trucs, ça c'est évident, mais à un moment donné les trucs ils sont dans le van et il faut les jeter, donc il faut trouver des poubelles publiques. Il faut quand même de temps en temps revenir jeter nos déchets dans le système. Voilà, c'est un peu comme ça que je le voyais, rejeter nos déchets dans le système. Et du coup moi j'avais un peu ce sentiment de c'est juste mon ressenti, hein, mais je me disais putain, mais en fait on n'est pas du tout indépendant. Au même titre, et ça il faut bien le reconnaître, et je le reconnais tout à fait, au même titre que ma vie normale. ma vie normale aussi. Évidemment que j'ai des poubelles, évidemment que je jette des trucs chez moi qui ensuite terminent dans le système, etc. Enfin, c'est juste que normalement, vu que je suis entre guillemets dans le système, on dira, dans la société plutôt, hein, j'ai envie de dire, ben je contribue un peu entièrement à tout ça. Je sais pas, enfin, c'est juste un sentiment. Je dis pas que c'est rationnel, que c'est logique ou que en temps normal c'est pas le cas, etc. Je demande pas vraiment à débattre là-dessus. Je partage juste mon ressenti à ce niveau-là, on dira. Mais ouais, j'aimais pas trop. En fait, je pense que je sais pourquoi. C'est parce que moi, je suis assez fier de mon indépendance, en fait, de mon indépendance dans ma vie à pas mal de niveaux, tu vois. Par exemple, je travaille pour moi-même, je fais ce que je veux concrètement, etc. Je suis indépendant, j'ai mon appart, etc. J'ai un peu mes bails, je dépends pas vraiment des autres. Je dépends du système, bien sûr, je dépends des autres d'un point de vue sociétal, etc. J'ai l'impression de faire ma part, notamment quand je paye mes impôts, j'ai l'impression de faire ma part. Donc je me sens plutôt bien dans le système, je contribue et j'en profite aussi. Là, j'avais l'impression de moins contribuer et de plus profiter. Peut-être que c'est ça. Et en plus d'être dépendant quand même du fait de je suis dépendant des autres pour pouvoir jeter mes déchets, je suis dépendant d'aller voler de l'eau dans les toilettes publiques, etc., etc. Et ça, c'est un peu fort et c'est un point sur lequel ma copine n'était pas d'accord. Et je vais y venir d'ailleurs, j'y viens maintenant, un petit peu à son avis à elle sur tout ça, donc assez rapidement ce qu'elle m'a partagé. Et pour ce faire, je vais me référer aux petites notes qu'elle m'a envoyées, voilà. Par rapport à ses attentes, les attentes qu'elle avait avant. Alors comme je l'avais dit, c'était un peu un de ses rêves de faire l'expérience van life pendant un certain temps. Alors je ne sais pas si on a réussi à atteindre cette limite de temps qui était peut-être représentative pour elle, un petit peu quand même. Hein. On se fait forcément une idée une fois qu'on a passé 12 jours dedans de si on aurait eu envie que ça dure plus longtemps, par exemple. Parce que pour elle, en fait, la van life dans sa tête, ça représentait la liberté, surtout la liberté de mouvement, le sentiment d'aventure permanente, d'être en dehors du système et de pouvoir profiter pleinement de la terre et de la nature. En tout cas, nettement plus que dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui, voilà, comme elle le dit, quelque chose d'important et qu'elle aime beaucoup. Donc, le côté idéalisation, c'est ce qu'elle m'a dit, l'idéaliser un petit peu le fait d'avoir moins de contraintes dans la vie, moins de stress, etc., d'être plus en connexion avec la nature, d'avoir plus de liberté et de vivre un peu une aventure permanente. Tu sais, un petit peu, le fait de vivre une vie d'aventure. Voilà. C'était un petit peu ces, comme elle le dit, ces idéalisations, en tout cas à ce niveau-là. Après, est-ce que ça a été validé ou confirmé ou infirmé? C'est ce qu'on va voir un petit peu dans ce qu'elle m'a partagé derrière au niveau des pour, ce qu'elle a préféré vis-à-vis de ça. Alors elle a trouvé que c'était un très bon moyen d'avoir un sentiment d'aventure, clairement, évidemment, par rapport à une vie normale, il y avait vachement plus d'aventure. C'est très spontané, c'est très au jour le jour, tu décides un petit peu où tu dors tous les soirs, il y a forcément des choses inattendues qui vont arriver, donc elle trouvait ça très très bien, et que c'était très amusant, notamment pour les personnes qui aiment ça. Hein. Si tu aimes justement le côté imprévisible, aventure, spontané, YOLO... YOLO quoi, concrètement, ça devrait te correspondre. En tout cas, ça va être une expérience remplie de cela, et ça peut connoter, ça peut détacher pas mal avec la vraie vie, et donc ça peut être un changement de routine assez appréciable. Donc ça, clairement, ça s'est confirmé. La connexion à la nature, elle a grandement plus soyé le fait que effectivement c'était une très belle occasion d'être beaucoup plus connecté à la nature. Évidemment, il faut faire ça assez consciemment, hein, c'est-à-dire qu'il faut aller dans les endroits où t'es dans la nature. En Suisse, c'est très facile, j'ai envie de dire, c'est beaucoup beaucoup de la nature, c'est très joli, c'est la montagne, les petites vallées, les petites forêts, les rivières, les lacs, c'est génial, c'est très nature, c'est très propre, c'est très peu pollué, c'est très joli, suivant où tu vas, etc. Assez loin des grandes villes, du coup, forcément. Comme c'est le cas, j'en suis certain, dans beaucoup beaucoup de régions en France, par exemple, ou en Belgique et tout. Donc ça, clairement, ça s'est validé dans les points positifs. Et à nouveau, le côté, le dernier point pour, la dernière catégorie pour, c'était un peu, effectivement, le côté simplicité de la vie, slow living. Elle m'a dit slow living, donc vie un peu plus lente. Donc tout va un peu plus lentement, t'es un peu plus chill, t'es un peu plus posé. plus de minimalisme aussi, elle a mentionné. Donc c'est vrai que ça, je l'ai remarqué aussi. C'est clair que bah, ça te pousse un petit peu dans ce cadre où forcément tu vas devoir choisir de pas avoir beaucoup de choses. Et si tu aimes bien ce sentiment que ta vie tient dans un sac à dos, ou plutôt que ta vie tient dans une grosse voiture, bah ça devrait te plaire. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était positif aussi parce que j'aime bien ce sentiment de minimalisme. Par contre, les désillusions, elle a écrit ça, les désillusions, elle dit que bah, effectivement on n'est jamais vraiment, voilà, elle s'est jamais vraiment sentie en dehors du système puisque on dépend notamment des supermarchés, des poubelles publiques, parce que pour ne pas dépendre des supermarchés et des poubelles publiques, bah, il faudrait cultiver sa propre nourriture, j'imagine, ou faire du zéro déchet. C'est autre chose, clairement, on n'est pas exactement dans la même expérience, je pense. Donc, retour aux sources, oui, mais retour aux sources, voilà, mitigé. Justement, on en rigolait avec elle dès que j'allais jeter un sac poubelle dans une poubelle publique, je revenais au van et j'ai dit, ah, retour aux sources, ça fait du bien quand même, un bon gros retour aux sources. Allez, vas-y. Quand j'enfonçais mon sac poubelle dans la poubelle publique, j'étais, ah, retour aux sources. Putain, on ne fait qu'un avec la nature, ça y est. On rigole, évidemment. Là, je te partage des inside jokes un petit peu, mais voilà. Donc elle dit que c'est pas véritablement un retour aux sources. Par contre, et c'est là qu'elle faisait la note, elle ne partage pas l'idée du mode sans sus. Pour elle, elle trouve justement que c'est pas du tout plus un mode sans sus que la vie normale. Pour elle, dans ce cas, la vie normale, c'est la même chose. Ce que je peux comprendre tout à fait. Surtout que de son point de vue à elle, bah évidemment, la nature sauvage, évidemment, je sais pas, de son point de vue, la nature sauvage n'appartient à personne et l'eau n'appartient à personne. Donc c'est vrai que si tu pars entièrement du principe que bah, les fontaines publiques, l'eau et la nature n'appartiennent à personne, eh bien dans ce cas, effectivement, quand tu es dedans, bah, tu ne pompes rien à personne. On dira, mais voilà, non, elle n'était pas trop d'avis à ce niveau-là. On dépend des supermarchés, mais c'est vrai que sinon, bon bah voilà, retour aux sources, retour à la nature. Après, on peut se poser la question de, est-ce que c'est pas uniquement possible de faire ça parce qu'il y a une société qui tourne à côté quand même de laquelle on se sort qu'à moitié. Ah, je suis pas là pour argumenter avec elle. Ça, on le fait à nos heures perdues, tu comprends. On échange nos idées, mais oui, c'était son point de vue. Les autres désillusions, un tout petit peu, enfin, désillusions. Les autres points négatifs, c'était que voilà, moins de structure, moins de stabilité, donc c'est plus difficile d'accomplir des choses productives. Et là, elle disait que du coup, ça dépend si t'as envie de vivre une vie productive ou chill, et qu'au bout d'un moment, ça doit devenir un peu pénible de pas savoir où dormir, etc. Beaucoup de temps passé à faire ça, donc faut avoir aimé. Un autre point négatif qu'elle a dit, c'est que bah dans ces conditions-là, en tout cas, c'était beaucoup plus difficile de cuisiner parce que elle aime beaucoup faire de la pâtisserie et tout. Bah là, on n'avait pas de four, donc forcément, bah c'est vrai que j'aurais pas pensé à ça, mais effectivement, t'as pas de four. Typiquement, bah tu peux pas cuire des trucs dans un four. Moi, je suis vraiment du genre à... Je peux manger dans une boîte de conserve, ça me dérange pas tant que ça, tu vois, mais on n'a pas tous nos mêmes petits plaisirs de la vie, on dira. Évidemment, moins de confort et les moustiques, gros point négatif. Voilà, donc en résumé, ni elle ni moi, on se verrait vraiment vivre de façon permanente dans un van, clairement, parce qu'il y a des avantages, c'est clair, mais ces avantages sont quand même possibles à obtenir autrement, c'est-à-dire en vivant un peu plus proche de la nature, si c'est quelque chose qui nous plaît, d'être un peu plus minimaliste dans notre vie de tous les jours, d'incorporer des choses qui soient plus spontanées et aventureuses dans sa vie, sans pour autant vivre dans un van. Ça faisait partie un petit peu de son résumé. Je trouve qu'elle a parfaitement bien résumé cela. Oh là là, magnifique, très très bien résumé. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'était un bon rappel de profiter, je trouve, de certaines choses. Un bon rappel de, quand je suis rentré chez moi, j'ai profité de mon lave-vaisselle, je peux te dire, je me suis dit, putain, le luxe, j'ai un lave-vaisselle. Alors je te rassure, toutes les petites choses de la vie dont tu profitais, et que tu reviens et que tu te dis, ah, maintenant, je vais être reconnaissant tous les matins d'avoir un lave-vaisselle, d'avoir un lit que je dois pas refaire tous les jours, d'avoir une douche où je peux me doucher quand je veux. Bon, bah oui, pendant une semaine, t'es reconnaissant et après, t'oublies. Classique. Tu redeviens dans ta vie, tu redeviens dans ta baseline de ce qui est normal. Et à nouveau, tu oublies un petit peu, enfin, tu vois, c'est un peu connu que tu te dis, ah, quand je vais rentrer chez moi, maintenant, je vais faire plus X ou plus Y. En ce qui concerne les actions, je suis d'accord, mais en ce qui concerne le ressenti gratitude et tout, bon bah, ça se cultive très consciemment, je pense, parce que c'est vrai que tu reviens un peu à la normale, quoi. Ta vie normale redevient ta vie normale et je suis toujours content quand j'y pense d'avoir mon lave-vaisselle, clairement, parce que je me souviens ce que c'était de faire la vaisselle. La vaisselle, c'était... Hey, j'ai pas parlé de répartition des tâches. La vaisselle, on la faisait les deux. L'eau, c'était moi. La cuisine, c'était plus souvent elle. Moi, j'ai fait une ou deux fois, mais elle aime bien cuisiner. Moi, j'aime pas trop. Passer trop de temps à cuisiner. Le soir, elle faisait le lit et les draps, alors que moi, j'étais occupé. J'étais de mission occultage. Occultage, c'est moi qui occultais tout le van de tous les côtés, avec les couvertures, avec les trucs à l'avant, etc. Voilà, c'est moi qui conduisais, qu'est-ce qu'on a fait sinon? Ouais, bah vite fait, quoi. Mais on est très vite, en plus, sans même avoir à le dire, tu vois, on s'est un peu naturellement dirigé vers les trucs qui nous plaisaient le plus, et puis chaque tâche a trouvé son homme, sa femme, et puis ça s'est très bien passé, quoi, concrètement. Bon, après voilà, c'est pas comme si on s'entendait mal dans la vie de tous les jours, de toute façon. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Écoute, cet épisode est relativement long, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long, putain, j'espère que ça t'aura plu. Je n'ai pas encore parlé de mes anecdotes finales. Écoute, je vais en faire une. Je pense pas que je vais faire la deuxième, qui aura peut-être plus sa place dans un autre épisode d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Ouais, est-ce que celle-ci a sa place? Allez, je vais quand même en faire une. Le cactus et le mec dans sa BM. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, on va finir sur Eric... Eric qui s'agace. Voilà, Eric agacé. Qu'est-ce que c'est, Eric? Eric agacé. On était à un moment donné, quand on était vers la fin, on était en Suisse italienne, vers la ville de Locarno, voilà, pour ceux qui connaissent. On était sur le lac Majeur. Et sur le lac Majeur, il y a des îles qui s'appellent les îles de Brissago, et on a été dessus. C'est une petite île qui est privée de base, je crois, qui a été transformée en jardin botanique de ouf, avec des espèces grâce à un microclimat qui est assez propre à cette région, qui est assez particulier apparemment. Des espèces de toute la planète sont cultivées sur cette petite île. Et j'ai trouvé ça, c'était magnifique, on a vraiment beaucoup aimé. T'avais vraiment des espèces, t'avais des espèces partout, des espèces que tu trouves qu'au Japon, des espèces que tu trouves qu'en Afrique, des espèces que tu trouves en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y avait des coins et t'avais à chaque fois ce que c'était, etc. Il y avait des plantes, il y avait des trucs de café, des avocatiers, des bananiers, tellement de trucs que je connais pas et que je pourrais pas te redire. C'était fascinant. Et à un moment donné, il y avait un cactus. Alors j'en viens au cactus. Tu vas très vite comprendre de quoi je veux dire, mais de quoi je parle, mais petit suspense un tout petit peu. Je suis arrivé au cactus, un grand cactus avec des grandes, des grandes feuilles et tout, vert comme ça, qui ressemble à un cactus, voilà. Vert, mais pas que. Il y avait des trucs bruns sur le cactus. Tu vas comprendre. En bas du cactus, il y a un petit écriteau. Sur le petit écriteau, c'est écrit un truc, je me souviens plus exactement, mais c'est écrit en plus dans toutes les langues et tout. C'est écrit... merci de déclarer ton amour sur Instagram, un truc du genre. Merci de déclarer ton amour sur Instagram plutôt qu'en le gravant sur ce cactus. Tu vois peut-être exactement de quoi je veux parler. C'est qu'en fait, typiquement sur ce cactus était criblé de cicatrices, concrètement, si je peux. Enfin voilà, des gens étaient venus quand même. Et ont tagué leur petit s'écœurvé, leur petit j'étais là, leur petit moi quand même, hein, mine de rien, parce que ils sont venus graver leur petit message là-dessus, sur un putain de cactus, sur une île, dans un jardin botanique, avec un écriteau qui expressément écrit dans toutes les langues « S'il te plaît, quand même !» Fais pas ça, tu vois, fais ça sur Instagram, poste une photo de toi et ta meuf, et puis mets un petit cœur en description, ça fera, entre guillemets, moins de mal, en tout cas, ça fera pas de mal à ce cactus, plutôt que de sortir ton putain de canif et d'entailler ce pauvre cactus. Et moi, quand je vois ça, ça m'insurge. Je suis consterné. En fait, ça me consterne et ça m'agace profondément en même temps. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais te raconter l'autre histoire qui va être très facile à comprendre et qui rejoint un peu la même conclusion, qui n'est pas nécessairement celle qu'on peut croire d'ailleurs. Hein, tu penses peut-être savoir où je vais en venir, peut-être que pas entièrement. La deuxième, c'est le mec dans sa BM. Alors là, c'est très rapidement dit, hein, je vais pas m'attarder. Je suis en train de conduire le van. Devant moi, il y a une BM. Je pense que c'est un mec. Je reconnais, j'en sais rien. C'est peut-être pas un mec, j'ai pas bien vu qui était en train de conduire. Ce que j'ai vu, par contre, c'est le moment où cette personne a baissé sa fenêtre et a jeté une putain de bouteille en pète par la fenêtre. Et moi, je suis derrière et je vois ça et je me dis, mais putain, le mec jette sa bouteille en pète par la fenêtre de sa voiture. Et ça, dira ce qu'on voudra, ça m'agace au même titre, en fait. Ça m'agace au même titre. Et là, on pourrait se dire, ah oui, l'environnement, polluer, casser des trucs, parce que graver sur un cactus, pour moi, ça revient à... Tu sais, des fois, t'as des monuments, tu vas visiter des monuments dans une ville ou je ne sais quoi, un truc pseudo, voilà, pseudo important comme monument, évidemment. Je te parle pas des tags sur les ponts et tout ça. Ça, c'est un autre sujet, j'ai pas vraiment d'avis, honnêtement. Là, je te parle des monuments un peu, voilà, c'est un peu protégé, c'est un peu patrimonial ou je ne sais quoi, c'est un peu à tout le monde, j'ai envie de dire, tu vois. Et il y a des mecs qui viennent avec leur putain de marqueur et ils écrivent des trucs dessus. Et pour moi, ça revient au même. C'est un manque de respect, en fait. J'ai envie de dire, alors oui, envers les autres, un manque de respect envers la communauté, un manque de respect parfois même envers l'environnement, comme par exemple quand tu jettes ta merde à travers la fenêtre, comme ça, ta merde, tu la jettes pour tout le monde, on dira. Mais surtout, c'est un manque de respect envers soi-même. Et c'est ça qui me... Enfin, manque de respect. C'est un manque de responsabilisation incroyable, en fait, je trouve. Moi, ça me consterne. Pourquoi ? Parce que je me dis, non mais quand même, en tant qu'adulte, tu n'en es pas encore au point soit de ne pas graver un cactus, soit de ne pas jeter tes trucs à travers la fenêtre, soit même, j'aurais envie de dire et de faire comprendre à tes enfants qu'il ne faut pas le faire. Parce que moi, je pars du principe que je parle de quelqu'un avec un certain niveau de maturité attendu quand même, hein, mine de rien. Quand t'es un enfant, t'as 8 ans, évidemment, c'est un enfant de 8 ans qui veut dessiner sur un mur, c'est pas la même chose. Qui veut poignarder un cactus ou tirer la queue d'un chat, pour moi, on parle pas exactement la même chose. Par contre, il y a quand même des parents, normalement, qui sont là pour dire aux enfants, bon bah non, fais ça dans ton cahier, de coloriage, mais peut-être pas sur le... Peut-être pas sur ce monument ou sur ce pauvre cactus protégé, tu vois, en quelque sorte. Ouais, et du coup, ça m'agace juste parce que je... Enfin, ça m'agace. Ça m'attriste un peu parce que je suis obligé de me dire, ouais... comment c'est possible d'avoir un certain niveau de responsabilisation personnelle quand même dans sa vie globale quand on fait ça ? J'ai envie de dire, c'est pas possible de faire ça et d'avoir une... Et d'avoir un sens fort de peut-être certaines... Enfin, en tout cas, on partagerait peut-être pas exactement les mêmes valeurs, tu vois. J'ai envie de dire, à ce niveau-là. Parce que pour moi, c'est le niveau moins 5. Le niveau moins 5 de prendre un peu ses responsabilités, ce que tout le monde doit faire dans la vie à un moment donné, pour différentes choses. Bah, le niveau moins 5, c'est de commencer par pas jeter des trucs par la fenêtre. C'est quand même pas très compliqué, quoi. Donc, est-ce que ça vient, ça vient d'un niveau de responsabilisation personnelle, ça vient d'un niveau, voilà, il faut qu'on nous ait appris à ne pas le faire, hein, quelque part. C'est pour ça que, envers soi-même, envers ses enfants, etc. Mais ouais, après, je sais pas pourquoi. Je partage ça parce que c'était pendant ce voyage en van que ça m'a marqué, que ça m'a marqué parce que je me suis quand même dit, ouais, putain, c'est, ouais, je trouvais ça un peu triste et un peu agaçant en même temps. Agaçant parce que bon, le mec, il s'en bat les couilles de, enfin voilà. C'est un peu pour tout ce que ça représente et tout. Même si clairement, j'ai envie de dire, tu vois, le côté détérioration, environnement et tout. Bah évidemment, c'est du bon sens que tu jettes pas tes poubelles dans la nature, quoi. J'ai envie de dire, quand tu conduis une BM, excuse-moi, mais normalement, normalement, t'as les moyens à tous les niveaux de pouvoir aller jeter ta bouteille dans une poubelle, quoi. Tu la laisses dans ta caisse, tu la jettes après. Enfin, voilà. Un peu d'amour propre, quoi. Quand tu pourris l'environnement de tout le monde, tu pourris le tien aussi, quoi. Enfin, je sais pas, ouais, un peu de respect de soi. C'est là que le respect de soi vient et que je me suis dit, non, ouais, mais c'est vrai que moi, j'aimerais pas vivre ma vie comme ça, ou dans ma vie, bah, en fait, je, ouais, voilà. Bref, c'est personnel. Peut-être que t'es d'accord avec moi, peut-être que t'es pas d'accord avec moi. Peut-être que toi, tu fais ça et que du coup, t'as tes raisons. que je. Ouais, que. Avec lesquels je pourrais tout à fait m'entendre, mais je reconnais que, ouais, je sais pas, je demanderai à voir. Ça dépend, hein, évidemment, ça dépend pour tout, comme j'ai dit, des tags sur un pont, pour moi c'est différent, c'est pas. J'ai pas du tout la même réaction par rapport à ça. C'est vraiment un peu plus, responsabilité personnelle de se respecter soi, les autres, et puis de se responsabiliser un peu, quoi. Effectivement, pourquoi taguer un truc sur un cactus? Quel est le. Ouais, c'est un peu égoïste, quand même, mine de rien. Mais pas égoïste dans le bon sens du terme. Voilà. Bref, c'est je me suis peut-être pas complètement bien exprimé à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça commence à faire long. Si tu es toujours là, merci. Merci, j'espère que ça t'a plu, surtout, parce que, mine de rien, je fais pas ces épisodes uniquement pour parler tout seul. Un petit peu quand même, mais pas uniquement. pas uniquement. J'espère que cet épisode t'a plu. Voilà, il sort en milieu de semaine. Ce dimanche qui vient, normalement, il y a un épisode qui est prévu, un épisode en duo, parce qu'on va reprendre un peu certains épisodes. Je vais avoir un peu de mal, je pense. Je vais avoir du mal, notamment au mois de septembre, et peut-être par la suite, à sortir des épisodes de podcast toutes les semaines, parce que j'ai des vidéos YouTube que je veux faire. Et c'est très compliqué, j'ai l'impression pour moi de réussir à tout faire, des vidéos très régulières, des podcasts toutes les semaines, c'est beaucoup de travail créatif qui est pas toujours facile à faire. Donc tu m'excuseras si la régularité n'est pas absolument cruciale, je vais faire de mon mieux. J'ai des épisodes sur des livres qui sont prévus, sur des expériences, comme j'en ai parlé, des épisodes à deux qui sont très très cool, qui sont prévus également. Et puis voilà, si cet épisode sort en milieu de semaine, comme j'ai dit, c'est que j'étais malade pendant quelques jours, et là, à la seconde même, ou presque, où j'ai commencé à me sentir mieux, bah, j'ai enregistré cet épisode, parce que j'étais dans le mal après une intoxication alimentaire qui a duré super longtemps. Putain, je sais pas ce qu'il y avait dans cette pizza, mais ça m'a mis mal, comme j'ai jamais été mal dans ma vie pour une intoxication. Je ne suis jamais malade de ma vie, littéralement. Enfin, littéralement, oui, je suis malade tous les 4 ans, quoi. Alors là, normalement, quand je suis malade, c'est que, typiquement, en revenant du van, en rentrant du van, j'étais malade. C'est-à-dire que quand je me réveillais le matin, il fallait que j'aille me moucher. Et voilà, c'est tout. Donc je devais aller me moucher parce que je sentais que j'avais le nez un tout petit peu obstrué et tout. Et je sentais que c'était pas complètement normal. J'allais me moucher pendant 5 jours de suite, je allais me moucher le matin. Pour moi, c'est ça, entre guillemets, être malade. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est pour dire que là, ouais, j'étais pas bien. Et donc, ça m'a fait du bien. Enfin, ça m'a fait du bien que ça s'arrête, parce que c'est vrai que quand t'as mal au ventre constamment pendant 5 jours, c'est pas drôle. Et ça m'a fait réaliser, je vais m'arrêter là-dessus, ça m'a fait réaliser effectivement, parce que c'est quand tu commences à avoir mal quelque part partout que tu réalises, ah putain, avant j'avais mal nulle part, mais j'ai pas réalisé en fait. Tu vois, on en revient un tout petit peu à une citation de Jacques Prévert, je crois, sauf erreur, qui est de l'ordre de « j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Donc en fait, c'est quand tu perds quelque chose que tu réalises que tu l'avais. Donc si, au moment même où tu écoutes ce podcast, tu n'as mal nulle part, eh bien, je t'encouragerais à prendre 5 secondes pour le réaliser, pour en être, entre guillemets, reconnaissant quelques secondes, parce que moi, j'étais reconnaissant de ça quand je n'ai plus eu mal au ventre, et voilà. Comme je l'ai dit, je vais être reconnaissant 2 semaines de suite, et encore, et après, je vais oublier, parce que ça va redevenir normal, mais c'est quand même des petits rappels de connecter un petit peu avec le moment présent de temps en temps, avec d'être en paix et d'être reconnaissant et content avec là, maintenant, tout de suite, plutôt que de toujours être dans la recherche de quelque chose, peut-être. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. Code Eric Flag sur MyProtein si tu as besoin de compléments alimentaires. EricFlag.com pour tes programmes et tes équipements sportifs. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On se retrouve dimanche, je l'espère, même si ça fait assez short avec la vidéo YouTube que je suis en train de tourner. Mais on va essayer de faire le taf. À très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.
Bon, t'as officiellement atteint la fin de cet épisode. Félicitations. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en lui mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et en t'abonnant pour ne rien rater. Et ça, tu peux le faire là, maintenant, en sortant ton téléphone. Ça prend 5 secondes, tu vois. Merci beaucoup pour ton attention. J'apprécie énormément. Passe une belle fin de journée et à très bientôt.